écoutez Radio FMR. Nous sommes le samedi 1er mai 2010. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le défilé syndical que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Bah, tu es l'auteur du Larousse de la bande dessinée.
Auteur
unique maintenant. Oui, à la fois auteur unique sur la partie alphabétique, hein, noir et blanc, qui va comme toute partie alphabétique de A jusqu'à Z.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Reich. Et la participation exceptionnelle de JB.
Juste après quand même le documentaire audio qu'on a entendu là de 2 heures sur les mouvements syndicaux, qui était pas mal du tout, qui était bien foutu.
Ça avait l'air intéressant.
On le réécoutera en différé. Enfin, nous, on est privilégiés, c'est différent. Hein. Mais en tout cas, il avait l'air plutôt bien. Et ça tombe bien, nous sommes le 1er mai, jour où la radio publique est prise par le patron de Charlie Hebdo, où Ciné Hebdo vient de fermer définitivement, et où cette émission de droite capitaliste, le rue des entrepreneurs, a été foutue. Tu dehors, merci France Inter. Eh oui, et quand même ça existait depuis 30 ans et c'était une émission super bien foutue. Et il l'a foutu dehors parce que voilà, ça mettait pas assez en place les patrons du CAC 40 qui sont les vrais salauds. Ça rendait sympathique les petits commerçants, ça les faisait chier.
Bonjour Desrich.
Bonjour Ultimatum.
Ça va bien?
Ouais, comme d'hab.
Oui, il fait un peu humide ici.
Ouais, on va quand même pas défiler alors qu'il y a de la brune dehors, quand même. Hein, enfin bon. La semaine prochaine, par contre, on est dehors pour le 8 mai. Non pas pour la fête de Jeanne d'Arc que j'aurais pu fêter comme chaque année avec mes amis de l'extrême, mais pour le festival de la bande dessinée qui aura lieu à la place du Capitole du 7 au 9 mai. Normalement, on devrait être en direct. Moi et Ultimatum, pas du sport. Parce que lui, il sera occupé. À bombarder le défilé militaire, je suppose. Mais bref, nous, on sera en direct. Il y aura plein d'auteurs qui viendront donc au festival de la bande dessinée de Toulouse. Il y aura aussi une partie sur la bande dessinée numérique. On verra ça. En attendant, parmi les auteurs, ils sont invités par des librairies, comme d'habitude. Il y aura la librairie Gilbert Joseph. Il y aura Cultura, une super culturelle, et Terre de Légende. Ce sera sur un stand où l'on sera. En compagnie de Jean Bastide et Vincent Mézil pour dessinateur de la guerre des Sambres, Becca qu'on avait eu sur cette antenne, Paul Coé l'honneur des Tsarom, je vais y arriver, j'espère qu'on va l'interviewer, Coyote, qui fait Coyote, mais c'est pas vrai quoi, mais j'ai toujours un problème de prononciation, Channel 4, qui fait Little Kevin, voisin du 109, Mouté Piston, enfin ça vous connaissez, Dabs qui dessine Tony et Alberto, Jean-Jacques Dialovski pour Groom Lake,
non mais attends,
Dialovski,
voilà,
fais-le toi.
Allez, Esp pour le
troisième.
SP. Bah, y a pas d'accent, désolé. Hein.
Bah ouais.
Troisième œil, le territoire chez Delcourt. Christophe Gibelin, les ailes de plomb, les lumières de l'Amadou édition Delcourt. Et Aero Artbook chez Paquet. Il y aura également Sébastien Gottels, Nid, ceci est mon corps chez Bambou. Hugues Labiano pour Black Op et Dixie Road chez Dargo. Il y aura également Benoît Lacou, une vie pour un canal 1907 à longue marche des vignerons du Midi chez Aldacom.
T'es pas obligé de prononcer l'éditeur à chaque fois, sinon on va pas s'en sortir.
Ah ben là, tu me l'avais marqué sur le conducteur. Vas-y,
non,
à
mais
toi
j'ai...
Eric
Lambert pour Le Dernier Qatar et Flore de Luna et Merlin. Trois gens très différents. Simon Liturgie Dessinateur des 4 quarts, Spoon and White, et le rire et le propre de l'homme, et surtout John Engrutel, Bruno Maionara qui dessine Garoulfo, vous savez, la grenouille qui se croit dans un conte de fées. Jean-Luc Masbou pour De Cap et de Croc, L'Empire Céleste et L'Ombre de l'Échafaud. Michel Pierret pour Les Ailes Décapitées. Patrick Sobral pour Les Légendaires. Eric Stalner pour Lou. Ils étaient 10, qu'on a chroniqué récemment. Et Flore de Luna. Tony Valente pour Les Quatre Princes de Ganaan. Et Anna Hattori. Wessengel. Là, je me fais piéger.
Contre, là,
les 4 quarts et les elfes, à chaque fois on se fait avoir là-dessus. Dabs qui dessine Nino et Rebecca. Jacques Azam qui fait plutôt la littérature jeunesse avec Manzarine, Anko,
Mandarine.
Ic. Mandarine. Pourquoi Mazarine?
Je sais pas.
Ringo le livreur de pizza. Alien Grand qui lui aussi fait de la jeunesse. Et Bernard Maucomble.
Gérard. Non mais c'est marrant parce que c'est pas comme si tu l'avais sous les yeux.
bah oui, un peu comme si c'est moi qui faisais la prog. Donc tout ça c'est la semaine prochaine pour le festival Bande Dessinée Toulouse. C'est le 7 au 9 mai, l'entrée est gratuite si je me trompe, sauf si vous repartez avec un bouquin, bah là vous devrez le payer bien sûr. Et bien évidemment, on essaiera de faire dans les conditions du direct. On espère que vous serez présents. Parce qu'on va bien s'éclater et nom de Dieu, ça fait 3 directs depuis le début de l'année.
Oui, bah là en plus vous pouvez pas nous louper, c'est vraiment que vous voulez pas nous voir parce que là on sera à Place du Cap. Hein. Alors c'est le ami toulousain, toulousouané comme dirait Boulet.
Ouais, parce que les autres à mon avis ils vont dire ouais non, t'es gentil coucou.
Oui, bref. Bah il faut aller péter à la Beige, on n'est pas motorisé. Bon là on peut difficilement faire plus entrer.
Du moins pour ceux qui y habitent à Toulouse, nom de Dieu, c'est-à-dire, c'est même desservé par le métro et vous avez les parkings gratuits à l'autre bout. Plein de choses cette semaine puisque on va parler principalement de justicier. Alors pas de super-héros, donc je rappelle le principe, c'est que le principe des super-héros c'est des mecs qui ont des super-pouvoirs et tout ce que vous voulez, et en fait des justiciers absolument pas puisque
Oui, c'est la Batman, on va dire, pour les connaisseurs. Ce sont des gens qui n'ont pas de super pouvoir, mais qui font leur justice parfois punitive et sauvage, comme le Punisher également. Des gens pas très recommandables pour la plupart.
Voilà, et alors que à côté, je rappelle quand même que la justice doit de faire un débat contradictoire, d'être séparée des pouvoirs de police et de démontrer que Charles Pasqua, étant un innocent opposant au régime, ne pouvait pas être embastillé de manière absolument honteuse. Et oui, pardon, ça ne regarde pas. On va commencer les sorties bande dessinée avec avec un. Une BD, bon, on va parler tout à l'heure de ce dessinateur pour une autre BD qu'il avait fait qui s'appelait Mélusine. Il s'agit de Clark pour Cosa Nostra. Le deuxième tome est sorti après plus de 10 ans d'attente pour le premier. La main noire, c'est chez le Lombard. On va parler donc de Mélusine, mais Clark avait depuis longtemps développé plusieurs autres univers, notamment principalement pendant les travaux d'exposition continue, qui a été repris ensuite pour Thérapie en vrac. Puis ensuite des albums sur les univers particuliers chez Fluide Glacial comme P38 et Banylon, Château Montrachet et Mister Président, ça c'est chez le Lombard. Clark complète, justement c'est chez ce dernier éditeur, un univers qu'il avait entamé chez Fluide Glacial, à savoir Cosa Nostra. Son sympathique guide touristique sur une curiosité qui n'a rien d'exclusif à l'Italie mais qui a un ton si particulier en Sicile, la mafia. Il est toujours très intéressant d'en connaître par exemple sa hiérarchie. Oui, après tout, le crime est organisé. L'importance qu'il y a bien évidemment la famille, mais aussi le respect de certaines règles, comme le droit du sang, le droit de la vengeance, le droit de payer l'impôt et le droit de se taire. Bon, évidemment, il y a toujours des étrangers qui débarquent de Rome et qui refusent de respecter les traditions. Tout se perd, même le juge Falcone. Humour. C'est toujours aussi drôle, décalé, mais décalé par le sens humour pince sans rire, qui arrive toujours à trouver le ridicule, qui vous fera rire dans une situation qui est à la base tragique. Les mafieux sont pitoyables, les hommes de main n'ont pas inventé le fil à couper l'eau chaude, mais on ne sait pas s'il a déjà épuisé le filon des clichés pour se lancer en plein milieu dans une histoire complète. L'album est par là même pas franchement équilibré, mais cela se comprend mieux quand on se souvient que 10 ans séparent les deux tomes et qu'il a changé de revue entre-temps. Cosa Nostra. Le deuxième tome de la série de Clark s'appelle La Mano Nera et est sorti chez Le Lombard. Et Thomas, lui...
Oui, je regardais avec la petite illustration là, sur...
oui, oui, sur le maire.
Avec le maire ligoté. Et puis juste après, c'est un flic qui dit non brigadier, je crois que celui-là on peut le rayer d'office de la liste des suspects. Alors on a Don Prodeo, Don Incognito, et celui qui veut rayer c'est Don Camillo avec la caricature de Fernandel.
Et l'inauguration de la statue du maire qui inaugure une statue de lui-même avec les pieds dans le béton. C'est assez violent. Mais on va encore avoir des emmerdes avec la Fédération des entreprises entrepreneuriales du bâtiment de France. On va avoir la fond. La Mano Nera de Cosa Nostra, c'est chez Clark, c'est chez le Lombard, et c'est distractif en fait.
Distractif, c'est pas mal comme mot. Distrayant, on dit normalement.
Oui, mais distractif est quand même accepté.
Distractif est aussi accepté. Allez, on enchaîne.
Ta gueule, monsieur Bernard. Non, c'est monsieur Renard, pardon, le mec préposé au dictionnaire. Et évidemment, faut que je revienne en arrière. Allez. Non, je me suis trompé. Je dois changer de disque.
Aujourd'hui, on parle de Cosa Nostra. Non, c'est mal. D'accord.
Parce qu'aujourd'hui, non, on va pas parler de Cosa Nostra, mais on va parler de...
Non, c'est trop tard.
On parlait de choses révolutionnaires tout à l'heure. L'international sera le genre humain et tout ça, mais on va parler de Soyuz, Sobenice, de l'Union des Républiques Soviétiques, socialistes soviétiques unies pour le progrès des travailleurs. Le jour J, c'est... vraiment une série qui est passionnante sur le papier dans le résumé, dont la couverture est engageante et vous allez voir pourquoi.
Now we've talked about the moon, we've sung about the moon, we've even talked about the moon being made of green cheese. Finally, a first-hand description of the surface of the moon from the moon.
We advise that a lot of the rock samples out here, the hard rock samples, have what appear to be vesicles in the surface.
Jour J, donc, scénario de Fred Duval et Jean-Pierre Pecaud, dessiné par Philippe Bucher. Oui, c'est des noms que vous connaissez forcément et qu'on a souvent cités sur cette antenne, et c'est pas pour rien. Le premier tome s'appelle « Des Russes sur la Lune ». C'est dans la collection Série B chez Delcourt, et c'est donc une nouvelle série, Jour J, qui est vraiment intéressante. Le postulat de ce premier tome est relativement simple. Les Américains n'ont pas gagné la course sur la Lune. N'a rien, mais vraiment d'un petit rien. D'un caillou. Mais d'un caillou qui se trimballe à plus de 10 000 km/h. C'est suffisant pour percer de part en part la capsule Apollo 11 et tuer les astronautes Buzz Aldrin et Neil Armstrong. Et donc ce sont les soviétiques qui poseront le premier pas de l'homme, en l'occurrence de la femme, en septembre 1969. 10 ans plus tard, les soviétiques mènent la partie en Afghanistan car ils arrivent à débusquer les commandos américains. On parle dans les ailes du Pentagone d'une probable station spatiale d'observation qui pourrait même être équipée de têtes nucléaires, en violation avec la Convention de Paris sur la non-armement de l'espace. La guerre froide a pris même un pas supplémentaire. On pense que l'horloge nucléaire est encore plus proche de minuit que lors de la crise de Cuba. Mais outre le militaire, américains et soviétiques continuent à se faire une course scientifique et technique. Les deux superpuissances ont chacun leur base permanente sur la Lune. Mais qui dit que les astronautes et les cosmonautes vont prendre les armes le jour où la Terre sera stérilisée par le feu nucléaire? Bucher s'est visiblement fait un plaisir de travailler sur les documents historiques. L'exactitude des engins et des bâtiments, mais aussi des visages des personnalités historiques sont très bien reproduits. On se fait un plaisir de reconnaître le Capcom de Houston, le président des États-Unis, les conseillers, les journalistes américains ou l'étoile montante de la direction du KGB. La maquette de cette nouvelle série joue aussi sur les clins d'œil, car elle a emprunté son look aux couvertures de Paris Match de la grande époque, ceux des années 1960, quand cet hebdomadaire était une référence journalistique. Après, on est en droit d'objecter. D'abord, avec trois programmes qui se continuent à se faire concurrence, les Soviétiques étaient encore loin d'avoir la même puissance industrielle que les États-Unis entre 1965 et 1970. Ensuite, l'établissement d'une base permanente aurait été nettement plus coûteux que 6 allers-retours, ce qui a pris à l'époque un budget équivalent à 5% du PIB national des États-Unis. Le travail présenté force le respect. L'Uchronie est intéressante, la prospective politique réjouissante, le travail de documentation, d'écriture et de mise en image une vraie merveille. Maintenant, on peut lancer le débat façon dossier de l'écran. Fred Duval et Jean-Pierre Percot au scénario, qu'on a plutôt en général pour faire de la science-fiction. Philippe Boucher aussi, puisqu'il fait la série Sillage. Jour J, le premier tome s'appelle Des Russes sur la Lune. C'est dans la collection Série B chez Delcourt. Je vous le recommande chaudement, parce que c'est un travail d'uchronie et de prospective qui est vraiment très bien mené et qui est vraiment intéressant. Entame le dossier spécial de cette émission avec un dossier sur, je vais dire, les carrières universitaires, les plans, je vais dire, post-bac et les formations pour devenir justicier.
Non mais c'est bien parce que là on est en plein dans l'actualité puisque nos amis lycéens planchent sur le bac et c'est vrai, que faire après le bac ?
Et c'est là qu'on se dit, eh ben, on pourrait être ouvrier à Flins ou encore avoir des perspectives intéressantes comme maton dans une prison ou encore chômeur. Mais non, il y a encore des possibilités pour les petits travaux en être dépendant grâce au statut d'auto-entrepreneur, celui, par exemple, de justicier, voire s'associer en groupe et monter une SARL de justicier.
Après, bon, c'est vrai que ça dépend. Ils peuvent ne pas se faire payer aussi. Et puis, c'est vrai qu'il faut aussi compter dans l'investissement dans le costume. Non, c'est pas mal de questions à se poser. Ça, ce sont des questions que peuvent apprendre certains étudiants.
Non, c'est pas des questions qu'ils peuvent apprendre. C'est des questions dont ils peuvent trouver les réponses.
Ils peuvent trouver les réponses et puis ils s'interrogent sur ces problématiques au sein de la...
cette logorétique.
De cette faculté d'études académiques des héros, autrement dit la FEAH, qu'on voit dans Freak Squeal. Freak Squeal, dont l'auteur, Florent Modou, a bien voulu répondre à nos questions, puisque nous l'avons rencontré au dernier festival d'Angoulême, donc de cette année 2010. Une interview assez très sympathique, et d'ailleurs, qui va arriver maintenant.
Voilà. Vous écoutez le supplément week-end, c'était donc en janvier dernier, c'était enregistré en janvier dernier, donc Florent Modou. Et caca. Ça m'est encore arrivé, voilà.
Florent Modou, tu es l'auteur de Freak Squeal, donc le tome 3 vient de paraître. Donc Florent Modou, bonjour.
Bonjour. Bonjour, moi je n'ai pas encore lu le tome 3, Thomas a opportunément oublié de me le passer.
Oui, t'as oublié de me le demander. Alors, le troisième tome est nettement plus orienté sexe que les deux premiers. Est-ce que c'était pour prouver aux frustrés des paréos du tome 1 que tu savais aussi aller franco?
Pour être franc, ça n'a pas grand chose à voir. Disons que je construis une histoire et puis il y a un moment où les choses doivent aboutir. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de sensualité et j'aurais du mal à appeler ça du sexe ou de l'érotisme. C'est plutôt de la sensualité et un rapport à la matière plus intime, quoi.
Oui, non, en fait, non. On a la vraie histoire. Todd t'a convoqué, t'a donné les chiffres de vente des premiers tomes, et quitte à faire rater la réalité, il t'a refourgué le numéro de The Economist, spécial Endemol, Sex is Money.
Ah, purée, on voit que vous avez des bonnes sources. Écoutez, oui, c'est un peu le problème. J'avais des ventes trop merdiques et ça décollait pas. Alors on m'a demandé de rajouter de la violence, du sexe et de la drogue.
Alors, en montrant l'entraînement des trois héros sur la moitié du tome, en fait, tu t'inscris dans la tradition des apprentissages où on en bave pour faire monter la sauce. Est-ce qu'on doit en déduire que le tome 4 sera de la baston non-stop?
Mais déjà, il faut conclure ce qui se passe dans le tome 3, c'est la moindre des choses, parce que je laisse le lecteur sur un cliffhanger bien frustrant. Puis ensuite, il y aura pas mal d'actions, pas mal de conclusions aussi de... Déjà, je vais conclure la première année, on verra bien, hein. Pas mal d'action.
En fait, le BTS de Mélusine, c'est de la gnognotte, hein. Elle a même pas eu droit à un bizutage. Je parle de la BD dans Spiron.
Mélusine, j'ai pas tout suivi, mais ça me plaisait bien, ouais. J'aimais bien. Mais le gros bizutage dans Freak Squeal, il a pas encore eu lieu, je pense que ce qu'on pourra faire dans... Je pense qu'il y aura encore des choses à raconter de ce côté-là.
Tu veux dire que c'est comme en médecine, où en fait le bizutage, on ne le fait pas aux premières années, mais aux deuxième années, tellement que c'est hardcore, le cadavre éparpillé dans les amphis et tout le reste.
Non, enfin là, je vais parler plus sérieusement de la BD, c'est-à-dire que j'ai pas encore tout à fait parlé des choses essentielles. Une introduction à l'univers et je pensais me rattraper sur ce tome 4 justement.
Alors ta marque de fabrique, c'est jouer à fond sur les clichés pour bifurquer et prendre exactement le contre-pied. C'est parce que tu te sentais pas d'assumer jusqu'au bout les codes du genre au premier degré?
C'est plutôt parce que les codes du genre au premier degré avaient déjà été exploités et bien exploités, donc l'intérêt justement c'est de, si vous voulez surprendre, enfin si moi je voulais me surprendre et surprendre le lecteur, donc prendre les codes et puis les renverser, les inverser, les retourner et les prendre violemment par derrière.
Oui, non, parce que en fait les clichés de maintenant c'est de contrer les clichés d'avant.
Ça pourrait l'être, mais curieusement on le voit pas si souvent que ça, donc j'imagine pas non plus être un révolutionnaire ou quoi que ce soit, hein, mais je pense que je m'éclate bien et puis le lecteur le ressent et c'est bien le principal, quoi.
Quand on est un jeune auteur de BD comme toi, est-ce que c'est plus facile de mettre en scène des étudiants en plein apprentissage?
Ah oui, c'est le but, c'est précisément parce que je me sentais pas d'écrire une histoire de quarantenaire, parce que je le suis pas. Et je me voyais plutôt m'inspirer de ma propre expérience de l'université, de la fac, les cours, le stress des examens. C'est des choses qui me parlaient plus que la guerre ou ce genre de choses qui n'ont pas bercé ma vie personnelle, quoi.
Justement, est-il vrai que t'as pas réussi à trouver une place via le Crous, que t'avais trouvé une place dans une résidence étudiante privée, tu as été viré pour impayé, et que finalement t'as réussi à trouver à louer un 25 mètres carrés sur 3 étages, tour de guet, période 14e siècle.
Vous avez pas toute l'histoire. En réalité, on a fait un squat avec des potes. Moi, enfin plus sérieusement, j'ai pas eu ce genre de soucis, mais c'est, je me suis inspiré pas mal de la vie de mes amis universitaires qui galéraient dans les Crous effectivement. En tant que jeune actif aussi, il y a eu cette recherche du chez-soi aussi qui revient, donc je me suis permis d'en parler aussi, ça me touchait personnellement. Donc
en fait, on a bien aimé, je te disais, le personnage de Xiong Mao, et on sent que tu as une tendresse particulière pour elle. Alors est-ce que c'est peut-être lié au fait que tu t'es inspiré de ta compagne? Entre Tom, en tout cas, elle passe de l'image de fille sérieuse à une héroïne beaucoup plus sensuelle qui se lâche finalement.
C'est prévu depuis le début. Je voulais la faire évoluer graphiquement aussi bien que psychologiquement depuis le début. Et c'est dans ce petit clac que je l'ai faite très sérieuse et très, très guindée au début. De même pour tous les autres personnages, j'essaye de les faire évoluer de la manière la plus intéressante possible. Et j'ai posé certains éléments pour justement surprendre plus tard.
Alors, un petit quiz basé sur tes confrères chez ton éditeur. Si tu devais infliger un entraînement à un disciple, alors tu serais plus la formule RAF, donc ce serait écouter de la soupe musicale non-stop pour s'en inspirer dans The Bazer. Petit 2, la formule Maliki, donc sacrifier un bras pour occuper Flayer en furie. Ou la formule Ancestral Z, non, c'est chemise, non, c'est trop horrible.
Pour un disciple, je lui ferais bien subir l'entraînement de run où le gars il aurait intérêt à recommencer sa planche jusqu'à que ce soit satisfaisant, sinon il le fera saigner et il lui fera faire du parcours jusqu'à entêter du petit lait par le fion.
Puisque après les études, hein, y a l'entreprise, et que chez Ankama on est une entreprise créative, mais faut pas déconner, on va pas s'amuser à construire des murs partout. Donc pour toi, ton astuce pour marquer ton territoire en open space. 1. C'est musique à fond, genre Ministry, Sepultura ou pire, une toccata de Bach.
Alors c'est très simple, je travaille chez moi à Lyon, donc l'open space, j'ai pas vraiment un gros souci, mais la toccata de Bach, je dis pas non.
Alors il paraît qu'il y a une adaptation animée de Free Squill qui est en préparation au Japon. Que peux-tu nous en dire? Est-ce qu'il y aura déjà beaucoup de liberté par rapport à la bande dessinée? Et pousseras-tu encore plus loin les références aux animés japonais?
Alors déjà, le dessin animé ne se fait plus au Japon mais en France. Donc on va pouvoir être beaucoup plus fidèle à l'histoire, à la BD. Le but c'est pas forcément de raconter ce qui se raconte déjà dans la BD, mais peut-être d'essayer de développer des éléments annexes qui n'étaient pas encore abordés sur papier, mais l'aborder de façon différente dans le dessin animé. Donc beaucoup d'ouvertures, beaucoup de choses intéressantes à développer. Un médium complètement différent de la bande dessinée, donc c'est énorme quoi. Ça va vraiment être très intéressant à réaliser.
Ah d'accord, ok, non parce que en fait je croyais que c'était une question gag qui avait écrit Thomas, donc c'est vrai, donc ah ben tiens, c'est amusant ça. Mais l'usine, c'est très suggestif, juste à peine suggéré. Mertonville, avec ses cours de justice, c'est plutôt habillé en général, mais ça reste relativement soft. T'es vraiment obligé d'aller directement dans la version hardcore. Finalement, Freak Squill, c'est de la baston gonzo, pas de scénario, on cogne de suite.
Comme je suis de nature bourrine, j'aime bien les trucs qui se passent direct, qui passent pas par la case préliminaire, et j'aime bien directement à l'essentiel le sexe quoi.
Le sexe, la baston direct de préférence.
Et oui, puis le sexe quoi.
Pas de provocation, pas de bisous avant.
Ah non, ça sert à rien. Sinon, il y a plus de tendresse quoi.
On mettra un sticker, attention, interview n'importe quoi. Merci Laurent. Merci.
Ouais, de rien, bah j'espère que j'ai bien répondu à vos questions, hein, que j'ai été très honnête en tout cas.
N'importe quoi. Freak Squill, donc le tome 3, tu l'as eu en avant-première pour Angoulême.
Oui.
Et alors, là, on le chronique en retard.
Voilà, un peu en retard. Oui, parce que j'attendais de chroniquer l'album en même temps que tu passerais l'interview. Voilà. Alors, Freak Squid tome 3, ça s'appelle Le Tango de la Mort, donc scénarisé et dessiné par Florent Maudou, que nous venons d'avoir en interview, et édité chez Ankama Edition sous le label 619, qui regroupe également les Mutafukaz et De Beyzer. Alors, étudiant à la faculté d'études académiques des héros, Ombre, Xiong Mao et Chance découvrent sur le tard que leur école est une université de méchants.
J'ai loupé le cursus.
Et au cours de la cérémonie de présentation des parcelles, donc ils devaient présenter des projets de conquête du monde pour se mettre dans la peau de leurs pires ennemis qu'ils devraient affronter plus tard. Les étudiants de la prestigieuse école de Saint-Ange, donc l'école adverse, interviennent pour mettre un terme à ce plan d'envergure de conquête du monde sous le regard des médias. Évidemment, tous acquis à la cause de Saint-Ange. Oh là là, ils sont trop beaux, les écoliers de Saint-Ange. Ils vont mater, ils vont damer le pion à ces fanatiques de la FEAH. Regardez comment ils sont habillés, ils sont en noir. Oh là là, ça fait peur. Et afin de... ces parcelles donc se clôt sur un brouhaha absolument énorme. Et afin de départager les deux écoles, un combat de champions est organisé. Alors Chance affrontera Ange dans un duel à l'épée. Xiong Mao, donc c'est une forgeronne, créer la lame de Chance pour le combat dans un lieu mystérieux coupé de tout, accompagné d'Ombre qui est chargé de chasser le gibier. Sauf que ce lieu coupé de tout, ils vont devoir affronter leurs propres démons intérieurs. Donc c'est un peu aventure intérieure, si tu veux, un peu mystique. Alors la thématique de cet album, donc c'est l'entraînement des héros pour faire monter la sauce, hein, c'est dans la grande tradition des histoires d'arts martiaux, c'est-à-dire que il va
l'entraînement, puis ensuite les combats qui durent 4 tomes et demi.
Voilà, donc
ou 5 épisodes 14. Et donc, voire 2 films.
L'entraînement, c'est censé montrer, ils vont en chier, ils vont suer comme des malades, ils vont avoir affaire à des profs super durs, évidemment ils vont dépasser éventuellement le professeur à la fin. Ils vont faire le dur apprentissage de nouvelles techniques ça va servir à monter la sauce pour montrer leurs nouvelles techniques dévastatrices pendant les bastons. Alors ça, c'est l'une des thématiques. L'autre thématique, c'est que après les golems dans le tome 2, maintenant on a un album qui est plus qui a plus une couleur sexy et la fameuse dualité Eros et Thanatos.
Alors franchement, à regarder les habits des Saint-Ange, il y a même un bisounours géant. C'est immense.
Oui, bisounours géant, oui. Mais il y a aussi en seconde lecture, tu as
dans le travail sur les golems, tu as les espèces de monstres un peu à la Tim Burton.
Oui, mais ça, tu l'avais dans le tome 2, ouais, et ça, c'est vrai. La suite du tome 2, en fait. Et alors, la fameuse dualité Eros et Thanatos, donc en même temps que Xiong Mao et Ombre vont devoir affronter leur propre démon intérieur, ils vont aussi se dévoiler. Ombre va commencer à tomber amoureux de Xiong Mao. Xiong Mao va montrer les délices, on va dire, de son corps de rêve, avec de nombreuses vignettes où on la voit assez dénudée. On sent que Florent Maudou s'est un peu fait plaisir, puisqu'il a dévoilé que Xiong Mao, c'était en fait un personnage inspiré de sa propre copine, le Vénard. Graphiquement, le talent graphique de Florent Maudou est toujours aussi impressionnant, puisqu'on a à la fois des pages en couleur, des pages en noir et blanc. Alors on est assez loin du style de Run, puisque Run aussi utilise ce procédé. Là,
style ?
Le style, Run. Oui, mais il en a plusieurs, mais on va dire le procédé du noir et blanc et des pages en couleur.
C'est des mecs qui sont pas bloqués dans un type de rendu particulier qu'ils vont essayer de maintenir dans tout l'album, parfois à la demande de leur directeur artistique, leur directeur de collection. Là, on est vraiment vas-y que je me défoule, je te montre toute la palette de ce que je sais faire.
Oui, ça c'est plus Run.
Et ça envoie.
Ça c'est plus Run. Florent Maudou, il a quand même un style, on va dire, plus homogène. Évidemment, il y a des pages couleurs qui tranchent au milieu des pages noir et blanc, mais il nous avait expliqué dans une précédente interview que c'était à la fois inspiré des mangas, puisque les premières pages étaient en papier glacé couleur, mais surtout aussi des Picsou Magazine et des journaux de Disney où il y avait aussi des pages en couleur. Donc c'est de là qu'il tient son inspiration. Et puis c'est vrai aussi qu'il avait envie de changer pour pas faire que du noir et blanc. Et c'est vrai que le noir et blanc, ça fonctionne super bien avec vraiment un gros travail sur les contrastes et tout. Quand ça commence à passer en couleur, tu te dis ouais, moi j'aimais bien le noir et blanc, et puis quand tu finis les couleurs, tu dis pourquoi ça repasse en noir et blanc, j'aimais bien la couleur. Donc il est aussi à l'aise l'aise dans la couleur que du noir et blanc, et puis c'est vrai que son style il tabasse. Et là où je trouve qu'il a un grand talent, ce type, c'est que c'est une BD qui, 100 fois, il aurait pu sombrer dans le, l'ultra référencé, dans le pastiche, dans je te mets du clin d'œil à toutes les sauces, et avec de la blague partout. Et à chaque fois, il évite ça, et pour partir vers autre chose, il fait pas de fanservice, il va t'aguicher avec un peu de sexy, mais il va partir sur autre chose, il va pas faire que du dévoilage de décolleté. Après, dans le premier tome, il te faisait des enlevages de paréo, mais c'était traité sous le registre de la comédie. Et justement, il joue avec la frustration du lecteur qui attend quelque chose et il part sur autre chose. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On en est au tome 3, donc il me semble qu'il était parti sur 5 à 7 tomes. On attend de voir la suite, puisque là, il commence à planter quelques sous-intrigues qui vont être suffisamment pas mal intéressantes, puisqu'il va y avoir une baston entre le prof de chance et le patron qui cache bien son jeu de la FEAH. Et on voit aussi des bribes du passé de Ombre, qui on sent qu'il a un rôle précis à jouer dans l'école, et c'est pas encore complètement dévoilé. Donc on ne saurait que vous conseiller donc cette série Freak's Quill. Donc le tome 3 s'appelle Le Tango de la Mort. Donc voilà, ce qu'il y a de bien avec les dessinateurs débutants d'habitude, c'est qu'on voit la progression du style, et lui il avait vraiment un style déjà béton dans le tome 1. Donc il reste sur la lancée. Et puis en plus, on peut relire les albums en le voyant sous le trait de la pastiche ou des clins d'œil. On peut essayer de regarder tous les clins d'œil qu'il a mis dans les cases. Donc c'est vraiment un plaisir. Donc Florent Maudou, Freak's Quill, tome 3, c'est édité sous le label 6-9 d'Ankama.
12h36 et 22 secondes, et la régie finale me dit: t'es vraiment un enfoiré, t'as encore zappé la pub.
Tu veux tout savoir de mes secrets, les plus inavouables et bien plus encore? Alors retrouve mes aventures sensuelles sur No Life, la chaîne de toutes tes envies, dimanche à 22h30.
Il sera passé qu'une fois, puisqu'en fait c'est un sondage qu'ils font auprès des auditeurs, c'est quelle émission vous fait zapper sur une autre chaîne. On vous fait la même. Voilà, donc on vous laisse deviner quelle chaîne a gagné. J'attends toujours quand même qu'il fasse le dîner presque parfait là, ou déco, à mon avis ça va être chaud. Ce sera diffusé qu'une fois, hein. Donc faudra pas le manquer celui-là. Follette Comet, le premier tome d'une nouvelle série scénarisée par Mathieu Sapin et dessinée par Christian Rossi, vient d'arriver dans la collection Poisson Pilote chez Dargaud et s'appelle Justicière à mi-temps. Paulette Stravinsky est une étudiante en deuxième année de droit. Comme les loyers sont très chers à Paris, bien au-delà en tout cas du budget d'un étudiant, elle a la chance incroyable de vivre dans l'appartement de sa mémé. Avec sa mémé. Mais elle ne mesure absolument pas sa chance. Un soir, alors qu'elle sort de la douche, un livreur lui remet un paquet mystérieux. Bon, j'ai oublié de préciser que le paquet est siglé Easy SM. Et là où Paulette a une chance fabuleuse, c'est que sa mémé est trop artistique pour se lever, trop bouchée pour comprendre ce qui se dit sur son palier, et trop myope pour voir au-delà de sa télé. Bref, Paulette croit à l'erreur, mais non, c'est bien sa chance. En fait, le livreur est un voyeur fétichiste qui la mate depuis des mois sur le toit en face et lui a offert une combinaison moulante, des bottes en cuir, un loup et une paire de menottes. Sa chance ne s'arrête pas là, pratiquement tout est à la bonne mesure. Mais alors qu'elle a fini d'enfiler sa belle tenue, elle est attirée par les miaulements d'un chat sur la gouttière. Et là, la chance ne s'arrête pas, elle glisse et tombe 5 étages plus bas sur la tête de Raymond Lascience, un malfrat dans l'exercice peu recommandable de ses fonctions criminelles. Non seulement est-elle indemne, mais en plus elle est tombée à point nommé pour arrêter net la carrière de ce malfaisant. Et joie des chaînes d'infos continue, elle se retrouve instantanément proclamée héroïne du 13e arrondissement. C'est là que la chance ne s'arrête pas. Elle a la présence d'esprit de ne plus donner son identité civile, prénom, nom, âge, qualité, mais de bredouiller un pseudonyme. C'est ainsi que Paulette Stravinsky devint Paulette Comet. Même que la mairie de son arrondissement organise une réception en son honneur, où elle va y aller incognito. Et c'est là que le lecteur va découvrir que Paulette Comet a une kryptonite. L'alcool. La moindre goutte d'alcool la fait délirer et peut avoir des conséquences catastrophiques. Alors imaginez si jamais cette information était aux mains de sa némésis, le cerveau, ou pire, du service communication, la multinationale pharmaceutique Flou, qui comme tout le monde le sait, a redressé énormément ses profits en octobre-novembre dernier avec son produit miracle qui protège d'une... Je me suis poilé, mais je me suis vraiment pissé dessus de rire tellement c'est bon. Le scénario n'arrête pas d'en rajouter. Les détails hilarants sont nombreux dans le dessin, mais surtout, l'histoire est très, très, très ficelée. L'histoire mène des complots en pagaille entre voyeurs, savants fous, petites frappes, multinationales, politiques, sectes et médias. Et malgré tout, eh ben, Paris peut se sentir en sécurité, car patrouille dans ses rues en vélib une jeune femme un peu naïve en combinaison spandex.
Et puis, super bien foutu quand même, la nana.
Ah oui, non mais... hein, loloche quoi. À noter que l'histoire avait commencé par être contée chez les Requins Marteaux et qu'elle avait été prépubliée chez Pilote. Et ben là, on est vraiment content que ça sorte un album complet et qu'en plus, ça va être une série parce que vraiment, mais vraiment, et n'importe quoi. Et on se marre. C'est gigantesque. C'est l'humour adulte, c'est clair. 16 ans minimum avec le petit macaron, comme pour la bande-annonce. Mais ça envoie sévèrement. C'est très bon. Paulette Comet, le premier tome, est scénarisé par Mathieu Sapin, que vous connaissez parce que c'est lui qui a fait l'album... 10. Non, c'est les 10 ans de la collection Poisson Pilote. Oui, non, mais il faut le savoir. Voilà, c'est erreur de maquettiste.
Du sport a l'air particulièrement intéressé par l'album.
Le sujet réagit positivement. Bien, passons à la phase B de l'étude pharmaceutique. Mathieu Sapin au scénario, qui avait fait notamment celui qui avait fait le journal d'un tournage pour Gainsbourg.
Vie héroïque, le film de Johan Sfar, puisque Johan Sfar était trop occupé à tourner.
Bah oui, forcément. Et dessiné par Christian Rossi. Paulette Comet, le premier tome s'appelle Justicière à mi-temps, c'est chez Poisson Pilote, c'est chez Darrow, et encore une fois, ouais, je ne peux que vous le recommander, tellement que c'est bon. Du sport, lui, il a des
j'ai
BD.
Déjà pris. T'as réservé ?
J'ai déjà réservé, oui.
Sauf que toi, tu t'es intéressé non pas à la formation de justicier, mais plutôt au Némésis en elle-même, avec deux albums.
Ouais, deux albums. Alors là, tu me prends un petit peu au dépourvu.
Il s'y attendait pas, le pauvre.
Non. Moi, j'étais encore dans mon truc. Je prépare mes trucs plan.
Il boit son café.
On boit le café, tranquille. Et là, hop, il faut attaquer direct. Allez, ben, on va attaquer.
Ah ouais, on est comme ça ici.
Alors, le premier. Alors, vous allez dire que je me fais une spécialité des BD qui vont donner un film.
Oui, depuis quelque temps.
Parce qu'il y a eu Kick-Ass. Et là, voilà, loser. Alors, sur Kick-Ass, vous avez carrément enlevé le sticker, le film dont la BD est tirée. Je l'avais carrément enlevé en direct dans l'émission. C'était il y a 15 jours, hein. Oui. D'accord. Là, je peux pas enlever le sticker. Parce que c'est merde. Sûr. Mais c'est imprimé.
Alors par contre, The Losers, je ne connais absolument pas. Je sais pas que c'était un film.
Bon, ok. Bah non, c'est un film qui va sortir. Hein.
Ah d'accord. Donc voilà. Moi, j'ai jamais entendu parler en tout cas.
Voilà. Ok. Et alors, par contre, j'ai pas eu. Je me suis pas trop intéressé à la date de sortie du film. Enfin tout ça.
On va voir ça de suite.
Ouais, parce que je pense que ça peut être assez récent. Hein. Ça doit être cette année hein, qui va sortir. Alors, je sais pas si ça peut donner. Un full frontal avec une autre grosse sortie qui est programmée pour cet été dont on reparlera.
Avec un super-héros, tu veux dire
Non, avec une bande d'ex-mecs de l'armée.
Avec un cigare.
Avec un cigare, ouais, on peut le dire. Là, il n'y a pas de cigare, mais enfin, il y a des cigarettes. Donc, ça revient un petit peu au même. Le topo est globalement le même. The Losers par Andy Deagle au scénario et Jock au dessin. Jock est anglais. Andy Deagle, je crois qu'il est anglais aussi. Hein. Il nous a fait Hellblazer.
C'est d'actualité parce que le film donc est sorti le 23, donc il y a une semaine aux États-Unis.
Aux États-Unis, voilà. Alors que sortira dans un ou deux mois en France, ou peut-être pour cet été. Hein, c'est-à-dire que ça peut être le full frontal avec.
On voit déjà le titre Cigarette versus Cigar.
Ouais. Alors, de quoi ça parle les Losers, en fait, c'est une bande de six héros ou anti-héros hein, qui, en fait, faisait partie des black opérations de la CIA, c'est-à-dire on nettoie, on dégage là où ça fait mal, tout ce qui peut être compromettant, on supprime.
Et on n'en parle pas au Congrès surtout.
Et on n'en parle pas, c'est-à-dire que bon, bah, ce sont des gens qui, bon, un petit peu comme dans, dans le message que reçoit au début de chaque épisode de Mission Impossible, Jim Phelps, il reçoit de toute façon, si vous vous plantez, enfin c'est pas dit comme ça, mais un petit peu mieux, si vous vous plantez, on ira toute implication de notre part. Bon là, c'est un petit peu pareil, sauf que bien ces losers ont bien une revanche à prendre. Pourquoi? Bien parce que un personnage mystérieux qui va être un petit peu bah, la pierre angulaire, hein, celui par qui le mal arrive des deux côtés, eh bien ça va être la recherche de ce personnage un petit peu mystique, on va dire un petit peu mystérieux, hein, qui a fait plus ou moins l'histoire de la CIA depuis les années 50, on nous parle de la Turquie, on nous parle de l'Afghanistan, on nous parle de tous les pays dans lesquels eh bien les États-Unis par l'intermédiaire de la CIA eh bien ont été un petit peu impliqués, même un petit peu beaucoup. Et là eh bien The Losers, on leur a joué un sacré coup. Alors c'est une bande de 5 mecs et une nana, Aïcha. En fait, ce qui leur est arrivé, c'est que bon, bah, on a décidé de les nettoyer à un certain moment parce que bon, bah, ils avaient les mains un petit peu trop sales et qu'il fallait un petit peu de sang neuf. Et donc, on les essaye de les faire disparaître mystérieusement dans un accident d'hélicoptère. C'est normal, hein, en plein boulot, hein, accident du travail, d'accord. Hein, sauf que bah non, ils s'en sont sortis et ils sont restés en planque comme ça pendant 4 ou 5 ans. Et là, bah, ils décident, bon, bah, c'est pas normal. On va essayer de se venger. On va essayer de savoir. Pourquoi on
nous et de faire justifier nos points retraite.
Ah ouais, pourquoi on nous a fait ce coup de salaud alors que bon, c'est quand même les meilleurs éléments de l'agence. Alors ça donne vraiment un super roman d'aventure, hein, avec beaucoup d'action. On se balade un petit peu partout, dans le golfe du Mexique, aux États-Unis bien sûr, mais on est également au Moyen-Orient. Bref, on va un petit peu partout et surtout ça dépote à tout va. Le dessin de Joke, moi, m'intéresse vachement, hein, c'est un petit peu stylisé, on va dire. Il n'y a pas trop de traits, c'est pas trop travaillé, hein. C'est plus
oui, c'est synthétique.
Des gros aplats, on va dire, des gros aplats de noir, de couleur. Moi j'aime bien ce graphisme, il n'y a pas de problème. Surtout que il arrive bien à mettre, il arrive bien à rythmer, hein, les différents. Moi j'aime bien ce style de case et tout, les différents formats, c'est vraiment très très intéressant. Moi ça m'a vachement botté. C'est le numéro 1 qui s'appelle La Main de la Mort. Alors bon, bah, je vous raconte pas la fin parce que bon bah c'est pas vraiment une fin. Il y a marqué fin, mais on sait que bah,
suivre.
C'est ouvert quand même, mais ça vaut vraiment le coup, The Losers. Donc cette série donc vient d'être adaptée par la Warner, hein, donc ce film qu'on pourra découvrir certainement dans 1 ou 2 mois ou 3 mois.
Bah aucune indication, donc à mon avis c'est au-delà de 3 mois.
Et ça pourrait être la bonne surprise. Pourquoi? Parce que bah au niveau de l'histoire.
Par contre, je peux te dire que l'affiche reprend vraiment presque fidèlement l'aspect de la BD. Ça a de la gueule.
Ah oui, c'est fait exprès, hein. Mmh. Oui, c'est tout à fait fait exprès, hein, de toute façon. Et bah c'est aussi bah ça fait partie d'espèce de mécanismes, on va dire financiers, qui disent ok quoi, c'est du merchandising et tout, on adapte, maintenant il y a carrément des gens qui sont payés qu'à faire ça en fait, hein, dire oh putain, et si on faisait la couverture, et si on faisait l'affiche du film comme la couverture du bouquin, trop cool, ah ouais cool, ah oh, bah t'as bien gagné tes 4000 par mois, c'est bien, ça fait plaisir.
On peut donner la distribution. c'est réalisé par Sylvain White et dedans il y a Jeffrey Dean Morgan, Idris Elba,
Jeffrey Dean Morgan le comédien dans Watchmen, hein.
Il est noir, hein.
Je crois. T'es sûr? Parce que c'est pas celui qui fait Rorschach. C'est pas celui, c'est James Earl Haley.
Allez, ouais.
Jeffrey Dean Morgan, mais tu cliques sur son nom et tu voilà.
Non, il joue dans The Office. Rock'n'Rolla, The Human Contract. Obsédé, Unborn, non, il n'y a aucune indication.
J'ai dû me planter alors.
À côté de cela,
ça me dit quelque chose,
Zoé Saldana, Columbus Short, Oscar.
Tu parlais d'Avatar tout à l'heure, Zoé Saldana.
Holt McCallany, Jason Patrick, Chris Evans, Holt Mac.
Ça va.
Non, non, ça va. Hein. Disons que bon, bah, c'est peut-être le film qui va damer le pion à.
Ouais.
À
il y a une
si
erreur.
The A-Team.
Ouais, ouais, Peter, ouais, A-Team. Hein, parce que bon, bah, je sais pas si t'as vu la bande-annonce de A-Team.
Mais c'est complètement décérébré. Hein.
Ouais, ouais, c'est ok. Hein.
Et mais bon, Joe Carnahan derrière, alors bon.
Ouais, on ira quand même. On ira quand même, ouais, ouais. Mais parce que c'est Carnahan. Hein. Pas de problème.
Ok.
Bon, The Losers, alors donc Andy Deagle et Jock, c'est chez Vertigo. Donc,
allez, on s'échange Fissal et BD. Ouais.
Alors, c'est pas on un bouquin de super-héros. Hein.
Oui.
Bon, bien qu'il soit. Qu'il dépote pas mal, les gars, quand
ah,
même.
Ah, on a dit que c'était des justiciers. Est-ce que ce sont des justiciers
Ben oui, ils veulent se faire voilà. Justice.
Voilà, donc
ils veulent
c'est,
se faire justice.
C'est parfait, alors.
Et là, bah, on parlait de justice, bah là, dans une nouvelle série d'Ed Brubaker et Sean Phillips, qui avaient déjà bossé ensemble sur la série Criminal.
Oui, alors là, hein, par contre, c'est une couverture qui est beaucoup moins lumineuse que la précédente. Hein.
Non, 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 non. Ça s'appelle Incognito, et le premier tome s'appelle Projet Overkill. Overkill du nom du héros principal, qui n'est pas vraiment un héros, car au départ, c'est un super vilain. Il faut replacer les choses dans leur contexte. On est dans le futur. Il y a eu des gros bastons entre les gens qui avaient des super pouvoirs et ceux qui n'en avaient pas. Et on en arrive à un état super policier où tous les super, c'est-à-dire tous les mutants, tous ceux qui peuvent disposer d'un pouvoir.
On a parlé de Watchmen.
Non, non, tous ceux qui peuvent disposer d'un pouvoir, eh bien, sont mis sous l'étau noir. C'est-à-dire, soit vous fermez votre gueule, vous ne dites rien. Pour les super vilains, on leur injecte un espèce de sérum qui leur enlève leur super pouvoir, un petit peu comme la kryptonite pour.
Oui, ou Superman. Pour le scénario des X-Men 3.
Voilà. Et Overkill, Zack. De son prénom, eh bien, lui, eh bien, a un petit peu retourné sa veste parce qu'il a aidé à la capture du super vilain qui voulait s'emparer de la Terre.
Qui était encore plus super vilain que lui.
Il s'appelle Black Death, d'ailleurs, la mort noire. Vraiment un super, super grand vilain. Et donc, lui a retourné sa veste, il a aidé à capturer donc Black Death, et en échange de ça, eh bien, nouvelle identité, protection des témoins, et mais seulement, bah, il doit suivre ce traitement. Où il ne peut plus. Et donc, eh bien, il se retrouve enfermé dans une vie complètement ordinaire, un travail dans un boulot d'archiviste, dans une espèce de bureau, où c'est un moins que rien, tout le monde se fout de sa gueule et tout, enfin bref, quoi. Et là, bon, bah, là où c'est très très bien foutu, c'est que Brubaker, dans la description de sa vie de tous les jours, eh bien, a une critique vraiment assez acerbe sur la société d'aujourd'hui, pas seulement américaine, hein, mais la société en général. C'est les rapports de l'homme avec le travail, des petites choses comme ça qui passent comme ça, on se dit ah ouais quand même, ah ouais quand même, c'est pas uniquement du baston, du rentre-dedans. Et Zack, bon bah il va quand même en avoir un petit peu ras la cacahuète parce que fondamentalement c'est un méchant. Il est très méchant, hein. C'est-à-dire que bon, vraiment,
il a tué des gens et tout.
Il a tué des gens et de manière assez violente et assez dégueulasse. Il mâche pas ses mots. Alors il faut dire qu'au niveau du langage dans le bouquin. En lui-même, hein, ça jure à fond les manettes.
Sur l'échelle de Garcenis, c'est comment
elle est pas mal,
c'est celle-là. C'est pareil.
Ah ouais.
Ah, c'est, non, c'est pareil. C'est pareil. Ça va vraiment très loin. Ça va très très loin. Hein, très très loin. C'est pour ça que bon bah les enfants non pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Hein, vraiment vraiment pas du tout. Hein. À la limite les losers ça passe encore. Mais alors là non. Là il faut pas trop déconner. Et Zack, je continue un petit peu. Zack donc il va faire la connaissance quand même du seul mec un petit peu intéressant dans sa boîte, qui est en fait un mec qui passe sa vie à se défoncer, à picoler, à essayer de niquer toutes les gonzesses qu'il trouve. Et donc il va un petit peu initier Zack Overkill à la fumette, alors que normalement il n'a pas le droit de se défoncer, il a un agent de probation donc il doit faire un examen d'urine chaque mois, mais son dealer lui trouve le produit qu'il faut prendre juste avant de passer le contrôle, comme ça t'es clean quand même, normal hein, c'est des bons dealers quoi, tu vois hein. Et bon bah il va se dire au bout d'un moment bon il y en a marre quand même et tout, il faut quand même, j'ai quand même mon truc vital, ce qui est en moi depuis le départ et tout, qui doit ressurgir. Et donc, il fait quand même quelques petites sorties nocturnes avec juste un petit loup comme ça. Mais il se range du côté de la justice. C'est-à-dire qu'il va remplir un petit peu le même rôle que Spider-Man. Oh, une nana attaquée par trois jeunes malfrats et tout. Bon, on casse la tête aux malfrats et tout. Et puis le tour est joué, quoi. Ben oui, mais il est du bon côté, ce coup-là. Il est plus du mauvais côté. Mais ça va quand même vachement se compliquer parce que ben, du mauvais côté, du côté obscur, Black Death, qui lui est en tôle, ben, continue quand même à diriger tous les super vilains et tout, son organisation secrète pour essayer de rendre le monde encore plus méchant et encore plus vilain.
Et accessoirement donc, se venger de Zach.
Et se venger de Zach, bien sûr. Hein, oui. Il va essayer de le rechercher, le retrouver. Il n'y a pas de problème. Alors, je ne vous dis pas comment ça se passe, parce qu'en fait, il y a une histoire de jumeaux qui ne sont pas vraiment des jumeaux. Et c'est vraiment super bien foutu de la part d'Ed Brubaker, là, qui montre vraiment qu'il est un super scénariste.
Et est-ce qu'il y a une fin où c'est à suivre après?
C'est à suivre, c'est le tome 1, là, un projet Overkill. Voyons. Alors, est-ce que ça va continuer à s'intéresser uniquement à Zach Overkill? Je ne le pense pas. Hein, je pense que ça va quand même un petit peu se développer dans un truc un petit peu plus général, hein, plutôt que de s'attarder sur juste un seul personnage, parce qu'il y a d'autres personnages qui sont un petit peu là en latence, on va dire, mais qui pourraient très bien être mieux exploités. En tout cas, Incognito, c'est une très bonne réussite, et ça prouve que les auteurs anglo-saxons, voire américains, sont complètement pas non plus complètement décérébré au niveau des prises de conscience sur comment va le monde, ce qui se passe. Ils sont quand même pas assez idiots à ce point-là, et là ils le démontrent avec force. Ça s'appelle donc Incognito, hein, de Ed Brubaker et Sean Phillips, et c'est sorti chez Delcourt. C'est le tome 1 qui s'appelle Project Overkill.
Cinéma, qui parle du sport.
Ah oui, tiens, pour une fois, c'est Duce.
Ah bah tiens. Non mais c'est génial aujourd'hui parce que Xavier fait de la BD, du sport parle de BD et de ciné. Moi je vais parler de BD et de télé. C'est génial. Ouais, c'est le bordel.
C'est impeccable.
Mais on reste dans la thématique. J'apprends à être un justicier.
Tout à fait.
Ouais, voilà. Ouais.
Je te filme, si tu veux, je te filme mes papiers pour faire la télé. Pas de
problème. On a déjà passé la bande annonce tout à l'heure pendant la pub.
Alors. Qui casse, donc vous l'avez pas vu, bon bah c'est dommage, hein. Allez-y quand même.
Non, il parle de nous deux, Ultimatum et moi, hein, mais il parle pas forcément des auditeurs. Attention.
Non, bah si, ceux qui l'ont pas vu, quoi, justement, c'est à eux que je m'adresse, hein, a priori, quoi, au départ, quoi. Alors, je sais pas s'il va rester longtemps à l'affiche. Je ne connais pas les chiffres.
C'est parti des films un peu inclassables, quand même.
Voilà, c'est ça, c'est un petit peu inclassable, on va dire. C'est pas un film de super-héros. Hein, c'est l'apprentissage, c'est un jeune ado, hein. Bon, là je me répète par rapport à ce qu'il y a dans la BD, vu que le film est vraiment copie conforme, un petit peu à l'instar de Watchmen l'année dernière, on a pris la BD, on a pris pratiquement case par case, et puis les plans se ressemblent pratiquement, quoi, on va dire, hein. Les répliques sont pile poil les mêmes, hein, c'est assez bluffant quand même, parce que
pas les répliques, hein, qui me gêneraient le plus à adapter au cinéma.
Non, mais justement, parce que là, dans la BD, hein, c'est quand même du haut de gamme, hein, faut dire ce qu'il y a, hein, la BD de Mark Millar. Et on va commencer. J'ai commencé par ce qui m'a fait un petit peu tiquer, on va dire. Hein. D'une part, on a l'impression que le film est vachement long. Pourquoi ? Parce que, il s'intéresse uniquement au héros principal. Donc, Kick-Ass,
le jeune, ouais.
Le jeune, hein, Dave Lizeski, qui va devenir Kick-Ass, hein, qui va être super héros. Alors que tous les autres s'intéressent plus aux choses un petit peu ras du cul de la vie quotidienne. Et lui, ce qu'il veut, c'est être super-héros. Et donc, il va franchir le pas au fur et à mesure et tout, devenir super-héros. Et avec les petits inconvénients qu'il voit avec.
Il n'est pas super, hein, il veut devenir justicier.
Il veut devenir justicier, ouais, tout simplement. Mais pour la beauté du geste, hein, pas pour gagner du pognon, que dalle. Alors, ça raconte son histoire. Et dans le film, est transcrit également ce qu'on appelle les bulles, les phylactères de pensée, hein, c'est-à-dire quand le héros est en train de gamberger et tout, il pense, on a droit à une voix off qui va donc être omniprésente du début pratiquement jusqu'à la fin.
Quand
du
on
film.
Parlait de Watchmen.
Alors, cette voix off, soit elle va en certainement en faire chier pas mal, à mon avis. Hein. C'est ce qui rend un petit peu le film difficile d'accès, parce que bon, bah, faut quand même se taper de la voix off pendant pratiquement tout le film. Bon, je vous rassure, pendant les scènes de baston, pendant les scènes d'action et tout, bon, bah, dans les scènes où il n'est pas présent, ok, bah, il n'y a pas de voix off, hein, il n'y a pas de raison. Et encore que, le film s'est attaché à garder l'esprit de bande dessinée avec les localisations d'endroits ou de périodes qui sont également incrustées sur l'image. En écriture BD, quoi, tu vois, ouais. Enfin bon, des trucs comme ça, quoi. Mais sinon, bon, bah, le film vaut d'être vu. Pourquoi ? Parce que l'acteur principal, Lideski, qui est complètement inconnu du public, bah, moi, il m'a fait un excellent effet. Hein. Il est absolument parfait dans son rôle de Lideski Kick-Ass. Mais c'est surtout après, avec les autres super-héros qui apparaissent au fur et à mesure, et en particulier Hit Girl, une jeune nana de 11 ans, donc, qui est également une super-héroïne et tout, et qui surgit un petit peu, bah, un petit peu pour sauver la mise de Kick-Ass à un moment donné du film et de la bande dessinée. Et elle est vraiment très, très, très impressionnante. C'est elle l'argument principal du film, du moins dans la deuxième partie, et ça, sans problème. Hein.
Et est-ce que c'est une super-héroïne au sens où elle a des super-pouvoirs ou
elle n'a pas de super-pouvoirs, c'est vraiment du Batman, on va dire, hein, c'est-à-dire super équipé, super armé.
Mais alors, de 11 ans.
Voilà, de 11 ans. Son papa, c'est Nick Cage, hein, ouais. Donc qui joue le rôle d'un justicier dont le costume ressemble, mais vraiment beaucoup, au costume de Batman. Ah, vraiment, hein, y a quelques éléments qui manquent, ouais, par
comme
rapport
dans, à, comme dans la BD. Batman.
Mais là, bah, okay, hein, c'est vraiment pratiquement pile poil une pari au même. Et Nick Cage, là où il le fait bien, c'est que il joue le rôle d'un mec qui a l'air assez vieux. Hein, c'est-à-dire qui a déjà tout vu de la vie, qui est fatigué un petit peu physiquement. Bon, dans les scènes de baston, il arrive quand même à assurer correctement et tout, à la Batman, on va dire. Mais on sent que bon, il y a une certaine lassitude quand même, quoi, au niveau de son comportement, hein, qui est sauvé par le fait, eh bien, qu'il apprend et qu'il inculque à sa petite fille Mindy, eh bien, tous les agréments de l'art d'être un super-héros et de faire le bien, de rendre la justice. Et là où c'est très bluffant, c'est que bon, la nana, on marche à fond dedans. Alors c'est assez marrant parce que au niveau des allusions un petit peu érotiques, un petit peu sexuelles qu'il peut y avoir, on s'intéresse au héros principal qui est un adolescent dans la fleur de l'âge, qui commence à avoir les sens qui s'épanouissent à fond les manettes. Les plus jeunes d'entre vous savent ce que ça veut dire, y a pas de problème. Et de l'autre côté, dès qu'on parle de Hit Girl, et dès qu'il y a Hit Girl qui apparaît à l'écran, même quand on en parle, il n'y a aucune allusion sexuelle. Ce qui fait que ce qui pourrait passer pour être un petit peu déplacé, voire un petit peu dérangeant, politiquement incorrect, le fait de voir une nana de 11 ans dégommée à coups de couteau des gardes-corps, coups de couteau dans la gorge, enfin bon, des trucs bien trash avec le sang qui gicle et tout, ben passe tout à fait bien. C'est ça qui est assez intéressant dans le film, hein, c'est qu'il y a vraiment une balance entre des moments où il faut y aller à fond les manettes, où on est décomplexé du gland à fond, et d'autres, oh, on se dit stop, okay, là on y va un petit peu cool quand même, on force pas trop la dose, on est politiquement incorrect, mais pas trop quand même, hein, juste ce qu'il faut, quoi. C'est-à-dire il y a quand même quelques éléments.
Dans une major d'Hollywood.
Non, il y a quelques éléments de morale quand même qui subsistent et tout, mais bon, que beaucoup de gens partagent également, hein, c'est-à-dire sans pour ça être affublé de trop de tares judéo-chrétiennes, quoi. Faut quand même pas trop déconner, quoi. Alors là où c'est très bluffant, c'est que Matthew Vaughn, qui par ailleurs avait travaillé comme assistant de Guy Ritchie, bah, connaît un petit peu son monde, hein, ça y a pas de problème. Le super méchant est tenu par Mark Strong, qui fait beaucoup de rôles de super méchant, on l'a déjà vu dans Sherlock Holmes,
hein, ouais.
Et là Mark Strong, bah, il le fait bien, il y a pas de problème. Pour qu'un film de ce genre soit réussi, il faut qu'il y ait un bad guy qui soit vraiment bien. Et là il y a pas de problème, Mark Strong, il fait son boulot tranquille. Sa femme, Yancy Butler, qui est également un petit peu connue, hein, comme actrice, puisque c'est elle qui était l'actrice principale de la série Witchblade, eh ben, on la voit dans trois plans et puis c'est tout, hein. Elle dit deux répliques et puis dégage, va te coucher. Mais le film vaut d'être vu quand même. Il paraît un petit peu long, on va dire, hein, mais ça encore, c'est peut-être parce qu'il y a une espèce de faux rythme qui est imprimé par cette espèce de voix off, hein, la voix du personnage principal. Sinon, Matthew Vaughn a superbement bien filmé de manière différente à chaque fois, c'est ça qui est intéressant, hein. Trois bastons différentes qui égrènent le film. Et, mais là, c'est les points d'orgue du film, à mon avis, hein, du moins au niveau de la maîtrise cinématographique, hein, du moins d'après ce que je peux en connaître un petit peu en étant même relativement profane. Mais je reconnais que j'ai quand même été assez bluffé par ces scènes qui sont très violentes, hein, ça il faut quand même le souligner. Et une scène finale qui est quand même mémorable parce que, à mon avis, eh bien, il y a des réminiscences. Matthew Vaughn a voulu dire. T'as vu, moi aussi je l'ai vu ce film là, tu vois quoi, regarde. Ouais. Et là c'est pas mal, quoi. Là ça le fait bien, ça rend bien parce que bon bah ok quoi, ça passe tout à fait. En tout cas c'est un film quand même à aller voir en VO, pas en version française parce que je redoute ce qu'ont pu faire les traducteurs avec certaines vannes dans le film parce que bon à mon avis ça va pas du tout passer. C'est Kick-Ass donc, et c'est actuellement ben, en VO, c'est Ogoman Wilson, et sinon la Belge et puis l'UGC, c'est en version française. Mais c'est quand même, on va dire, à ne pas voir avant l'âge de 10 ans, on va dire, hein, quand même, voire ouais, 12, parce que c'est quand même assez violent, hein. Vraiment, c'est assez violent, ça charcle pas mal.
13h05 dans le supplément week-end sur Radio FMR, oui déjà, et encore, il reste 3 bouquins avant d'entamer la télé. Hypnolove, Fleshy Pretty Girl.
Just
Et voilà qui clôt notre dossier sur je veux être justicier, quelle école supérieure je dois prendre. Hypnologue, flashy pretty girl. Et on entame doucement la télé, mais pas dans l'immédiat. D'abord, eh oui. on va parler de nos amis nordistes qui font du jeu vidéo.
Voilà, donc alors tu disais, on clôt le chapitre justicier, mais pas tant que ça, puisque Gultar, qui est un des personnages emblématiques de la série Dofus, et surtout Dofus, édité chez Ankama, donc c'est un personnage qui est adulé par beaucoup de gens, qui est limite bad guy, mais il fait aussi le bien. Alors il pourrait rentrer aussi dans la case des super justiciers, puis lui aussi il a de sacrés super pouvoirs qui tabassent. Alors on continue dans la page Ankama. Donc là c'était une bande dessinée hors série de la série Dofus qui était sortie pour la Ankama convention qui s'est tenue en avril, et la thématique générale c'était ambiance givrée. Donc là, c'est pour ça que ça se passe, que vous voyez la couverture, c'est dans un hiver polaire. Alors cet album, on peut s'en passer, mais l'intérêt de cet album, c'est que donc Dofus, Gultar, Bazar, c'est que ce sont des petites histoires autour de la vie de Gultar, le barbare. Donc c'est celui qui a, pour les connaisseurs, alors je vais montrer son arme à du sport, il va me dire s'il reconnaît la référence. Alors la référence, voilà. Son arme, c'est ça.
Ah bah ouais.
Voilà.
Moi, ça me fait penser à un jeu vidéo.
Alors, peut-être, et ça se fait aussi penser à The Blade, donc de Tsoyark.
Ouais.
L'intérêt, c'est que c'est plein de petites histoires autour de la vie de Gultar, donc son enfance, ensuite le moment où il commence à être connu en tant que guerrier, et à la fin, il y a une Gultar-vention. Donc il arrive au milieu de plein de sosies, c'est un concours de sosies pour désigner le meilleur sosie de Gultar, sauf que lui c'est le vrai Gultar, et il va devoir prouver qu'il peut être le vrai, devant tout le monde, qu'il est le vrai Gultar, en dansant la danse de Gultar. Donc il dit facile, c'est moi qui l'ai inventé, donc on a une petite choré ici. Et l'autre intérêt de cette...
Qui je suis sûr doit être jouable par les mecs de...
Exactement, tu crois pas si bien dire, puisque à chaque petite histoire correspond un défi que les fans de Gultar devaient relever pendant la Ankama Convention. Donc à un moment donné, dans une petite histoire, on voit Gultar chevaucher une espèce de créature qu'on retrouve dans le jeu Dofus, et il y avait une séance de rodéo qui était pendant la convention, et les gamins pouvaient essayer de tenir le plus possible sur l'objet qui dansait, en fait. Donc à chaque histoire il y a un petit défi. À un moment donné, il faut reconnaître Gultar dans la foule pendant la convention et lui glisser à l'oreille le nom de sa mère, qu'on voit d'ailleurs dans la première petite histoire. Donc au niveau scénaristique, c'est pas une BD qu'il faut appréhender en tant que BD, mais en tant que supplément à la convention. Donc c'est quand même assez sympathique, puisqu'on a Gilaris, on a Krunchan, on a la team Dofus avec Ancestral Z et ses acolytes, j'oublie le premier, et donc c'est sympathique. Ils avaient aussi sorti un album qui s'appelait Les Chouchous de Rouchou, toujours autour de Gultar le Barbare. Donc Gultar, on voit dans la dernière scène de la dernière image de la dernière petite BD qu'il rencontre le petit Tristepin, et donc Tristepin, on en parlera tout à l'heure, puisque c'est l'un des héros de la série animée Wakfu. Voilà, donc la boucle est bouclée, et à la Star Wars, on introduit l'un des personnages d'autres fans connaissent. Voilà. Donc c'est une BD qui casse pas des briques, mais qui est quand même assez sympathique. Donc c'est Gultar Bazar, un hors-série de Dofus. Donc qui était là pour accompagner la Ankama Convention, et qui est dispo depuis avril, et c'est édité chez Ankama. Je viens d'apercevoir que j'avais fait cette chronique sans regarder mes notes.
Pas mal.
Ensuite, on reste toujours chez Ankama et dans le multivers Wakfu et Dofus. Donc c'est cette fois-ci la collection Wakfu Heroes qui est inaugurée avec ce premier tome qui s'appelle Le Corbeau Noir, et qui est scénarisé par Toth Jean-David Morvan et dessiné par Adrian, alors je sais pas comment on prononce. Donc c'est Le Corbeau Noir, on va en parler ensuite avec un bouquin sur la série animée Wakfu. Et donc ça raconte Cabrok, puisque c'est l'anagramme de Korbak justement. Cabrok est venu aux manettes derrière la petite échoppe qui sont visitées par l'équipe de héros de la série animée Wakfu.
Je passe la BD à Xavier pour qu'il se fasse une idée.
Ah, oh, des jolis avantages acquis pour la fille du devant. Pardon.
Et donc c'est l'histoire de Cabrock, qui est un vieux brocanteur itinérant, vivant dans la nostalgie de ses exploits passés à taper les bandits de grand chemin. Alors il empince pour la belle, mystérieuse et très entreprenante Miranda, qui ignore tout de ses prouesses d'antan. Mais lorsque ressurgit un vieil ennemi, Cabrock doit dépoussiérer son épée et retâter de la baston. Alors on se dit, tiens, c'est bizarre, puisque dans la série animée Wakfu, Cabrock et le Corbeau Noir, c'est un seul et unique personnage, puisque le méchant dans le film, l'épisode, tu vois à la fin que c'est juste Cabrock qui était un grand guerrier avant et qui se fait profondément chier sa race en tant que vendeur, et donc il va revêtir les habits du Corbeau Noir pour terroriser les vendeurs qui sont ses concurrents et rester le vendeur qui a dans l'échoppe est resté intact. Et donc voilà, c'est une série de bandes dessinées qui avec Wakfu Heroes qui va certainement reprendre quelques personnages emblématiques de la série. Ce personnage, le personnage était doublé par la voix française officielle d'Harrison Ford. Donc dans la série animée, ça lui conférait une espèce d'aura supplémentaire. Et c'est vrai que c'était un personnage qui était attachant. Et Todd disait justement que c'est l'un des rares épisodes dont c'est lui qui a signé le scénario. Et il s'est plus attardé sur... en fait, l'épisode s'est laissé guider par la personnalité du personnage plus que par vraiment un scénario digne de ce nom avec une histoire. Et c'est orchestré autour de ce personnage pour qui il a une profonde tendresse. Et alors, l'album, c'est pas mal parce que c'est deux vieux schnocks qui vivent un peu dans leur gloire passée, qui se chient aujourd'hui, ils s'aperçoivent que leurs meilleures années c'était quand ils se bastonnaient la gueule, et donc ils vont essayer de se retrouver avec la belle Miranda qui est au milieu, qui sait pas trop ce qu'elle fout là, et elle va apprendre justement le passé de ces deux personnages. Donc l'album est très sympa, au niveau du graphisme ça tabasse aussi, alors il y a quelques petits passages en SD qui sont rigolos, et on a aussi quelques ambiances sombres et pluvieuses avec les apparitions du Corbeau Noir qui sont franchement super efficace. Donc c'est un album, moi je l'ai trouvé franchement plus que potable et vraiment intéressant. Et puis ça fait une préquelle assez sympathique à l'épisode 3 de la série Wakfu. Donc ça s'appelle la collection s'appelle Wakfu Heroes, donc ça s'appelle Le Corbeau Noir, c'est le premier tome, et c'est scénarisé par Tote et Morvan, dessiné par Adrian, et c'est chez Ankama.
Avec une partie d'Atabouk à la fin, la Gazette Damakna. Damakna, je vais y arriver, voilà.
Voilà, et donc tu as un petit album en photo pour montrer qu'est-ce qui se passe après pour la suite avec le mariage de la belle Miranda avec Cabrock, etc.
Et on se rapproche de la télévision.
Et oui, la partie télé, c'est pour une fois n'est pas coutume, c'est moi qui introduis la partie télé aujourd'hui. Et on finit avec le dernier ouvrage d'Ankama que je vous présente aujourd'hui. Et c'est la série animée Wakfu qui a désormais des artbooks. Et celui-là, il s'agit du tome 2. Donc c'est le making-of de la saison 1.
Non, mais celui-là, il donne envie, quoi.
Oui, oui. Alors les autres, ils donnaient pas envie.
Par contre, c'est... Non, oui. Mais je veux dire, c'est... quand on a des artbooks en France sur les dessins animés de télévision... c'est pas des trucs qui sont franchement engageants. Enfin, on sent qu'il y a une erreur, tu vois, sur la maquette ou un truc comme ça. Et là, il y a quelque chose de dynamique qui s'en ressort. C'est déjà une bonne bande annonce. Je suis aussi surpris parce qu'il est en format à l'italienne. Hein.
Oui, format.
La plupart des artbooks, c'est vrai que c'est une hérésie, mais ils sont en format en hauteur. Oui. Et maintenant qu'on est passé en diffusion 16:9, ben le format en l'italienne se justifie.
Ben oui, puisque on a des illustrations extraites des épisodes, alors c'est vrai que ça met plus en valeur les illustrations justement, et puis les croquis préparatifs pour les décors. Alors là ça, c'est un artbook qui s'intéresse surtout à trois épisodes qui sont Le Corbeau Noir, Miss Moche et Les Cinq Magnifiques qui sont une allusion directe aux 7 mercenaires bien sûr.
Oui.
Alors tiens, si tu veux jeter un coup d'œil. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils annoncent la couleur dès la première page, puisque c'est un texte de Tote qui dit Alors moi, franchement, moi je suis vachement fier de l'épisode du Corbeau Noir. Par contre, pas du tout fier de Miss Moche et des 5 magnifiques. Alors Miss Moche, les héros sont ridicules et franchement, c'est pas un épisode que je préfère. Et puis les 5 magnifiques, il est trop mauvais parce qu'on s'est fait la main sur cet épisode. C'est celui-là qu'on a fait en premier. On était 40 personnes à tout casser sur cet épisode et on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Franchement, c'est tout juste si tu te dis que cet épisode c'est de la merde. Donc voilà, ça plante le décor. Et puis aussi, il balance quelques piques sur la façon de produire des dessins animés aujourd'hui en France, puisqu'il dit ah oui, mais
il précise que c'est un épisode où c'était un gros calvaire, hein, quand même.
Oui, oui, oui. Il disait ils ont pas mal, s'en fait la main dessus, alors, avec tout ce qui ça implique en aspect négatif. Et il dit aussi, alors pour scénariser ça, alors on a fait à la française au début, on avait une armada de scénaristes qui sont habitués à scénariser pour la production animée, etc. Et puis il s'est dit, mais franchement, si nous, en commun, on s'est CO dessin animé, c'est pas pour faire la même chose que font les autres, c'est-à-dire des scénarios faits à la...
Attends, je dis très exactement ce que dit Toth. Le résultat nous a vite explosé au visage. Il y a en France une certaine façon de faire de la série, que cela soit dans un sous-traitant systématique dans les pays comme l'Inde, la Corée ou la Chine. Pas précisé, mais je dirais plutôt les Corées. Hein. Il y a, semble-t-il, une recette miracle pour faire de l'argent faisant du dessin animé pour enfants. Si on ajoute l'exigence des divers coproducteurs, le cocktail nous donne une systématisation des chaînes de fabrication. Cela se ressent sur les séries, évidemment, à commencer sur la première étape, l'écriture.
Exactement.
Il est assez critique. Hein.
Ah oui, oui.
Il peut se permettre.
Et puis, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que, si tu veux, Ankama, quand il lance des jeux, ils sont censés lancer des jeux et que le jeu a 1 an et demi de retard, eh ben, il explique que c'est eux qui sont des gros nazes et puis ils ont voulu faire trop bien, ils sont pas rendu compte de ce que ça impliquait. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas avoir des croquis préparatoires et des super jolis, donc t'as les animateurs qui commentent aussi. Alors, c'est en bilingue, c'est anglais et français.
Ouais. Et effectivement, on a chacun qui est personnifié, on sait vraiment quel a été le travail de chacun, ce qui est plutôt rare en dessin animé d'ailleurs.
Oui, oui, donc t'as l'animateur, tu as celui qui fait les storyboards, etc. Et à chaque fois, c'est anti-langue de bois, c'est-à-dire que le gars, à un moment donné, il y a un épisode de Miss Moche où les héros passent l'épisode à être maquillés en Miss Moche et en demoiselle, donc moche. Et à un moment donné, ils ont en gros plan, ils montrent une image où les héros ils ont une réaction et en fait c'est de gros plans de visage, ils ont oublié de les maquiller alors qu'ils passent l'épisode maquillé et ils disent typiquement l'erreur de débutant, le faux raccord, non c'est juste avant. Ouais, c'est un gros plan.
Désolé pour ceux qui n'ont pas payé à redevance couleur. Hein.
Et ou juste avant ou juste après, je sais plus. Et il dit oui voilà typiquement une faute de raccord, c'est-à-dire que l'autre il dit ah ouais t'as l'œil toi putain merde, moi j'ai passé des heures à essayer de retoucher l'expression de machin et je me suis absolument pas rendu compte qu'il y avait une faute de raccord et qu'ils n'étaient pas habillés de la même façon que les autres plans. Et ils disent ouais mais à coup pas, on est les gros glands. Ça explique pourquoi il y a plusieurs versions des épisodes, ils ont voulu aller assez vite.
Ah d'accord, c'est pour ça que ça a été rediffusé sur la 3. Et c'était pas uniquement pour passer des petits bonus.
Oui oui et puis donc ils avaient.
Alors Sim ça il y a personne qui le fait hein. Le studio Pierrot au Japon ils s'en foutent.
Ben là ils avaient aussi pris du retard. Ils montrent qu'ils ont aussi redynamisé le découpage puis ils ont créé de nouveaux plans pour la rediffusion des épisodes. L'épisode du Corbeau Noir par exemple, la voix d'Harrison Ford, ben, c'était pas du tout la voix d'origine donc il a été redoublé entre temps entre plus de 2 diffusions. Donc et en plus c'est ils sont vachement honnêtes parce que tu vois dans les commentaires donc t'as les notes d'intention anti-langue de bois, t'as ils montrent comment ils ont où c'est qu'ils ont fait des erreurs, ils ont dit tiens à un moment donné il y a un storyboarder, il te dit ah oui là c'est un des premiers storyboards que j'ai fait, je connaissais absolument pas le background des personnages, je ne connaissais rien, alors j'y suis allé à l'instinct et j'ai essayé de storyboarder de la manière la plus décalée possible et justement ça a intensifié le côté comique de l'épisode et puis voilà c'est plein d'anecdotes comme ça. Ils montrent aussi techniquement pourquoi ils ont fait un mix entre le système d'animation en flash, c'est-à-dire du vectoriel où c'est des points clés et puis en fait l'ordinateur en fait
fait de l'interpolation,
calcule, de l'interpolation
voilà
avec des,
donc
il n'y a
pas d'intervalliste derrière.
Exactement,
ce qui donne justement une animation très fluide.
Voilà et par contre ils montrent aussi là où cette animation flash a des limites, donc c'est pour ça qu'ils ont aussi recours à de l'animation traditionnelle et également aussi de un peu d'ajout 3D par exemple pour l'épisode du Corbeau Noir, la monture devait avoir l'air un peu irréel donc ils ont mis de la 3D dans la monture et ils expliquent explique que toute la problématique ça a été de faire cohabiter l'animation flash, animation traditionnelle plus des éléments 3D. Et donc voilà, ils insistent aussi sur les problèmes de raccord. Donc en plus, bon, t'as aussi le côté artbook intéressant que les gens vont chercher dans les artbooks, c'est-à-dire que tu as les croquis, tu as, il dit ah oui, il y a machin, elle s'est occupée de faire toute la banque de nuages, donc ils expliquent qu'ils ont dû faire ensuite un important travail de compositing pour dissocier chaque nuage, parce que évidemment,
pour donner une profondeur quand
le
quand
nuage
se
qui est le plus près de l'observateur va se déplacer plus vite que celui qui est derrière, donc c'est à la fois didactique et puis aussi ça a les traits d'un artbook, donc c'est franchement intéressant. Et puis au niveau de la qualité du papier, de l'iconographie, c'est franchement intéressant. Ils ont pris des petits pictos en SD pour accompagner en visuel les petites notes des auteurs, pas juste le nom mais aussi leur petite caricature en SD, c'est pas mal. Et puis t'as aussi à la fois les storyboards, tu as les visuels un peu plus fouillés, jusqu'aux crowbars, jusqu'aux images définitives qu'on voit dans l'animation. Et puis à la fin tu as une partie crowbar avec que des croquis en marron des personnages. Pour les fans d'animation, les fans d'artbook, c'est franchement recommandable. Il est pas franchement super épais, mais c'est quand même un nombre de pages conséquent, et puis le prix est abordable, donc c'est pas mal. Wakfu Making of saison 1, donc ça c'est le tome 2 et c'est édité chez Ankama, et voilà, et donc c'est sur 3 épisodes, donc je pense qu'il y en aura pas mal pour la saison 1. Je sais pas combien il y a d'épisodes, 12 à mon avis, ils en sont prévus d'en faire une cinquantaine, 52 épisodes.
h 25, on va se faire engueuler par le producteur de l'émission qui nous suit.
Mais qui ça? Qui ça?
Donc on va lancer de suite la loi.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries.
Duce, c'est toi qui as la zapette magique. Hein.
Zapette magique pour quelques petites séries inédites qui vont débarquer. Je vous rassure, il s'agit ni plus ni moins que des séries de second choix. On va dire pourquoi, parce que ce sont des séries qui ont été achetées un petit peu comme ça en package par les chaînes françaises ou francophones.
L'équivalent des sorties techniques, tu veux dire?
Et qui n'ont pas duré longtemps dans leur pays d'origine en plus, hein, qui ont été arrêtées au bout d'une saison pour les plus chanceuses, au bout de quelques épisodes pour les
voir des fois
chanceuses.
On peut dire aux Américains ah moi j'ai vu 3 épisodes de plus que toi parce que toi on t'en a diffusé que 4.
Et ouais, mais bon,
voilà. Okay. C'est un beau couillon.
Ouais ouais. Alors la première, eh bien, à l'instar de Chicago Hope, de Urgence, de Dr House, on est dans le milieu médical. Mais cette série Three Rivers, Trois Rivières, qui est assez récente, hein, date de l'année dernière, 2009, eh bien, s'attache plus à une spécialité, à savoir la transplantation d'organes. Alors, le truc, c'est d'arriver à intéresser le public avec ce sujet qui est un petit peu trash, on va dire, quand même. Hein, ok, une opération à cœur ouvert, tu vois ça une fois, c'est bon. Après, tu te dis, j'ai vu, ça suffit. À moins d'être vraiment pervers, hein, d'un style un petit peu particulier. Mais là, le traitement qui peut être intéressant... Hein, comme une série anglaise qui s'appelait The Golden Hour et qui s'attachait à des équipes médicales d'urgence, les urgences, hein, le SAMU quoi, qui interviennent sur les lieux d'un accident, un truc comme ça, pour soigner les blessés, et qui disent que le Golden Hour c'est la première heure qui suit l'accident et c'est là où on a plus de chances de sauver les gens. Là c'est un petit peu pareil, eh bien, dans cette série Three Rivers, eh bien, on s'attache un petit peu au côté un petit peu urgence, justement, hein, sans faire de jeu de mots un petit peu débile, de la transplantation, c'est-à-dire que un receveur a besoin d'un organe parce que il va mourir, il faut trouver l'organe, c'est traité assez souvent en sous-main de temps en temps dans quelques séries médicales, NIH ou des trucs comme ça, mais pas vraiment, ce n'est pas le sujet principal, là c'est le sujet principal, donc c'est certainement le rythme de l'épisode en ce qui concerne l'acte, la transplantation d'organes, qui détermine si ça vaut le coup d'être regardable ou pas. Le casting est quand même relativement sympa avec Alex Loughlin qui jouait un flic dans The Shield, Justina Machado qu'on a vu dans Urgence, c'est une des infirmières, Alfred Woodard, Daniel Henney, bref, ça peut le faire quand même. C'est sur Série Club à partir de mardi prochain à 20h40.
autre série qui est là, plus une sitcom, hein, qui est d'ailleurs l'équivalent américain, les ricains qui copient sur les anglais parce qu'ils trouvent que les anglais font les trucs vachement bien, hein, les anglais qui sortent The Worst Week of My Life et les ricains qui retravaillent la série et qui en font The Worst Week. Et qu'est-ce que c'est que cette plus mauvaise semaine?
Je tiens à signaler un gag que j'ai appris hier, c'est que The Office, non pas le coffret DVD, non, Queer as Folk, est sorti en coffret DVD. La saison anglaise, ils ont repris des captures d'écran de la série américaine.
D'accord.
C'est pas mal, là. Ça rappelle les fondus enchaînés magistraux sur 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà.
J'ai pas trop saisi la référence avec les fondus enchaînés.
Non, les mecs qui font les pochettes de DVD, souvent, c'est des gros glandus.
D'accord.
Ouais. Ok, Worst Week, donc, j'en reviens. Eh bien, la pire semaine, en fait, c'est la semaine qui précède un mariage. En fait, c'est juste la semaine avant de se marier. Qu'est-ce qui va se passer?
Tiens, ça me rappelle
un film. Partout. Et là, ben, ça fait l'objet d'une sitcom qui a été très réussie en Angleterre, vu que bah, les ricains décident de s'en emparer. Et là, eh bien, ça donne au format sitcom, c'est-à-dire 25 minutes, eh bien, une série tout à fait regardable et rythmée, comme les ricains savent bien les faire au niveau sitcom. Là, il faut quand même reconnaître qu'ils sont vraiment super bon, quoi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'à voir des trucs dans le style Two and a Half Men, Mon Oncle Charlie. Il n'y a qu'à voir That 70 Show. Il n'y a qu'à voir Friends, même. Hein, bon, c'est pas n'importe quoi, quand même. Là, c'est Erin Hayes, Kyle Bornheimer, qui sont les héros principaux de cette série Worst Week, avec Kurt Smith, certainement encore dans un rôle de papa, vu son âge, normal, papa un petit peu trash, on va dire, hein, comme dans That 70 Show, mais ça peut le faire quand même. C'est sur Teva à partir de lundi 20h35 et qui vous le diffuse en rafale de 5 épisodes. C'est-à-dire, vous en avez pour 5 fois 25 minutes, 5 fois 26 minutes, quoi. Donc, c'est lundi et la rediff aura lieu vendredi prochain à partir de 23h10. C'est pour les séries inédites, ça ira bien. Il y a des débuts de saison inédites, par contre, cette semaine, avec Esprit Criminel, la saison 5, qui démarre mercredi prochain sur TF1 à partir de 20h45. Et lundi, donc, dans le précédent créneau de diffusion de Esprit Criminel, eh bien, lundi prochain seront diffusés les deux derniers épisodes de la saison 4 dans l'ordre, c'est-à-dire le 23 et le 24.
Ah, c'est ça normal, veut dire parce que c'est plus un téléfilm français qu'ils vont mettre, hein?
Non, c'est, non, mais en deuxième partie de soirée, hein, à 22h30. Okay. Ah, non, mais vu le sujet, il vaut mieux, quoi, tu vois, hein.
Ok. Non, j'ai cru qu'ils allaient mettre un truc en face, face de Brandon Lee.
Là, non, mais attends, il faut quand même dire chapeau à TF1 qui, lundi soir, 22h30.
Tu veux dire qu'ils font leur boulot?
Oui, ils diffusent les deux derniers épisodes dans l'ordre de la saison 4. C'est normal parce que c'est un épisode double, donc ils ont intérêt à le diffuser dans l'ordre quand même. Et qui, à partir de mercredi, donc, nous diffuse, mercredi 20h45, nous diffuse les trois premiers épisodes de la saison 5. Dans l'ordre, 1, 2 et 3. Hein, chapeau quand même, les gars. Et qui, après ces trois épisodes d'Esprit Criminel, saison 5, donc inédit, eh bien, nous diffuse le premier épisode de la saison 6 de Lost. Je vous rassure, c'est la dernière.
Ah.
Et ils savent quelle est la fin. Enfin, du moins, pas tous, mais enfin, nous, non. Mais enfin, bon, il y a que les créateurs qui connaissent la fin et Matthew Fox, le héros principal.
Ah bon?
Ouais, il connaît aussi la fin.
On ouais, dit, en au fait, ils se réveillent tous sur une plage et.
Ah, moi je suis arrêté à la fin de la saison 3, moi, alors.
Ouais, non. Mais l'île, elle se déplace, alors bon, elle fait le voyage dans le temps.
Pareil, ouais.
Enfin bon, voilà. Donc ce sera mercredi, après.
Et voilà, un bon spoiler, bravo!
23h!
Merci!
Bah, c'est marqué dans les journaux, alors bon, c'est pas tellement spoiler, quoi, tu vois. Il y a également l'excellente série produite par Canal Plus Engrenage saison 3 qui démarre sur Canal lundi à partir de 20h50.
Gigantesque.
Et le retour de cette excellente série française de la télé publique, Un flic avec Alex Deka dans le rôle titre. Excellent
ouais,
polar.
Mais il n'y a que 2-3 épisodes par saison, voilà. Mais alors putain, qu'est-ce que ça envoie, hein.
Ouais, ça envoie. Et là, ça enverra de nouveau à partir de vendredi prochain dans la case traditionnelle du vendredi soir. Polar sur France 2 à partir de 20h35. Un flic, donc.
Il va falloir faire la place sur le disque dur, là.
Des films à présent, vite fait, de tout et n'importe quoi, des westerns, des documentaires, des péplums, enfin, n'importe quoi. Ce soir sur RTL 9 à 20h35, un Colt pour une corde de Ted Kotcheff. Rambo et Tetkovchev, producteur exécutif sur New York Law and Order maintenant, quoi, tu vois, hein, pour assurer ses vieux jours, tranquille. Ah bah ouais, bah quand même. Là, c'était en 73, donc il est pas jeune, le monsieur, hein, avec Gregory Peck, Desi Arnaz Jr. et Jack Warden, ainsi que Sian Barbara Allen. Mais ce soir, sur Paris Première, à 22h30, il y a également un excellent documentaire inédit. Tracy Lords, une ambition classée X.
Ah non!
C'est à partir de 22h30 sur Paris Première ce soir.
Non!
Sur TF6.
Non! Non! Non
trop tard.
Putain, dehors les filles! Allez hop!
Attends, recale-le pour plus tard.
Ouais,
sur TF6 ce soir à 20h40, l'honneur des gladiateurs de Georg Papavassiliou. Avec Stéphane Hornung, Marion Mitterhammer et tout, que du putain de bodybuilder à fond les manettes et tout. C'est un gladiator, mais qui vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Hein. C'est-à-dire que bon, si ce mec avait eu les moyens qu'a eu Ridley pour tourner son gladiator, bah, peut-être qu'il nous aurait fait un truc mieux que gladiator, tu vois quoi. Carrément quoi. Parce que là quand même, ça dépote, l'histoire est pile poil la même. C'est une histoire de vengeance et tout. Bon, son frère il meurt et tout, donc il décide de le venger et puis il devient gladiateur. Bon voilà. Sauf que bah les mecs, bon bah c'est des hein, c'est des costauds, y a pas de problème, on voit que c'est leur boulot, hein, de laté ou de castagner et tout, quoi. Donc y a du catcher, y a de tout, quoi. Bon. Ça vaut son pesant de cacahuètes, franchement, quoi. C'est un film qui est pas mal du tout. Et assez bien filmé, en plus, hein, par Jorge Papavassiliou, qui n'est pas grec, comme son nom l'indique, mais qui est autrichien.
D'accord.
D'accord, ouais.
Le film est une coproduction austro, voilà, quoi. C'est ce soir sur TF6 à 20h40. Sur AB1, ce soir à 20h40, il y a Raptor Island de Stanley Isaac, avec Lorenzo Lamas et Steven Bauer. Ça dépote et tout, des soldats qui se retrouvent dans une mission dans la mer de Chine et qui se rendent compte bah, qu'il y a des bestioles qui terrorisent une île. Ah là 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 là, heureusement Lorenzo est là. Demain sur TF1 à 20h45, CSI, saison 9, l'épisode Bas les masques à 20h45 est réalisé par un certain William Friedkin. Demain soir sur TF1.
Et Mireille Dumas, c'est quand qu'elle arrive?
Attention, parce que j'attends dans cette saison quand même l'arrivée du crossover avec Star Trek.
Ah oui,
celui-là, il est. On m'a dit qu'il était costaud.
Demain sur RTL9 à 16h, 4h l'après-midi, donc La rivière de la mort de Steve Carver avec Michael Dudikoff, Robert Vaughn, Donald Pleasance et Herbert Lom. Herbert Lom, alors lui, il est quand même hyper vieux, hein, il est né en 1917. C'est un acteur d'origine tchèque, dont le vrai nom est Charles Kuchasevich ze Schluder Pacheru.
Ouais, faut se le faire. Ça la faisait mal devant...
Alors, c'est vrai qu'Herbert Lom, c'est vachement plus facile. C'est vachement plus facile.
C'est pour les génériques.
Il fait ses débuts. Alors, il a
dû lui dire, tu sais, pour les Oscars, vaut mieux que tu raccourcisses.
Ben vous le connaissez en plus, hein, parce qu'il a tourné dans un nombre incroyable de films. Hein, il a fait ses débuts en 1940. Son premier film, c'est Mein Kampf, un autre nom. Enfin, c'est pas d'après Mein Kampf de Adolf Hitler, rien à voir. C'est Mon Combat. Bref, il arrive même. Bon, il fait 6 films rien que dans l'année 1950, dont le Night in the City de Jules Dassin, hein, Les Formants de la Nuit. Il est dans le Lady Killers de Alexander McKendrick. Le tueur de dames, le film anglais,
ouais,
là.
Il a été remaké.
Hein?
C'est celui qui a été remaké par les Farcoen ou ça a rien à voir?
Je crois que ça a rien à voir, hein.
D'accord.
Mais semble. Je sais pas, celui-là, je le connais pas.
Il est dans le Topaz de Peter Sellers en 61. Et vous le connaissez surtout parce que, bah, ça a été un acteur régulier dans tous les Blake Edwards, en particulier dans La Panthère Rose, vu que c'est lui qui joue le rôle de Dreyfus, le supérieur hiérarchique de l'inspecteur Clouseau. Donc, vous connaissez certainement Herbert Lom. Je reviens à ma programmation demain sur Action à 20h40. Portée disparue, Chuck Norris, Joseph Zito, vas-y.
C'est obligé.
Et ce sera tout pour demain. Lundi, Cinéma Frisson vous propose une soirée intéressante, on va dire, avec la réplique puis l'original. Mais vu que la réplique a été produite par celui qui a fait l'original, on peut se dire bon, c'est un petit peu biaisé. Enfin, c'est peut-être quand même à voir pour ceux qui n'ont pas vu la réplique, à savoir Fog de Robert Wainwright avec Tom Welling, Maggie Grace, Lost et Selma Blair, suivi du Fog de Carpenter, donc à 22h20 sur Cinéma Frisson.
Je te rassure, même Carpenter a dit qu'il était là juste pour empocher l'oseille.
Ah bah ouais, bah écoute, hein, lundi sur Cinéma Classique à 23h15, Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky en 89 avec Axel Khodorkovsky, Adam Khodorkovsky et Blanca Guerra. Ouais, on fait jouer toute la famille.
Tout
merde,
à fait.
Ça coûte moins cher, quoi. Et je sais pas si t'as remarqué, mais il commence par la lettre A. Alexandre.
Je me souviens plus comment il s'appelle.
C'est pour,
son
les,
fils,
c'est pour la classe. Ils font l'appel.
Eh bien, Axel et Adam. Ah bah si, c'est marqué.
Celui qui voulait faire jouer dans son remake de Dune.
Ah bon, bah. Je continue hein, en attendant que tu trouves ton truc là. Lundi sur Polar également, un bon Roger Corman, The Intruder.
Pourquoi t'avais amené ce DVD.
William Shatner, Frank Maxwell et Beverly Lunsford. Et là, Corman en 62, eh ben, il fait pas un film avec des monstres, il fait pas un film où, avec des aliens, des trucs comme ça. Non, il fait un film qui parle d'un sujet extrêmement intéressant et qui à l'époque était vraiment d'actualité, le racisme. Et dans ce film, William Shatner, qui joue le rôle d'un excité passablement de droite, on va dire, va foutre la merde dans une petite ville de province dans le sud et tout, de telle manière à organiser un lynchage.
T'en avais parlé
là,
plus d'une fois.
Ça vaut vraiment son pesant cacahuète parce que il y a vraiment pas beaucoup d'action, il y a pas d'effets spéciaux que dalle. C'est tout sur la rumeur, c'est tout sur le jeu des acteurs et tout, mais c'est absolument renversant. Hein, c'est genre de film qu'on a déjà vu, c'est clair, hein, c'est genre de sujet qu'on connaît. Hein, mais là, c'était fait en 62, et à l'époque, Rosa Parks, c'était de l'histoire contemporaine. Tiens, je te le prête, tu te feras une petite idée pour plus.
Ça passe quand? Sur Polar?
C'est lundi sur Polar à partir de 21h.
Oh merde.
Lundi également sur Cinéfix à 21h, Samouraï Résurrection de Hideyuki Hirayama, ou sur la chaîne Action Tokyo Raiders, qui n'est pas un film japonais mais chinois, de Jingle Ma avec Tony Leung Chiu-Wai, Ekin Cheng et Kelly Chen.
Et Tony Wong Tony Leung qui fait du karaté. C'est
en plus
une minute de silence s'il vous plaît.
Ouais. Mais non, mais c'est comme c'est un acteur qui est vachement marrant quoi, qui a joué dans plein de comédies. Bon c'est pour ça que ça va être intéressant ces petits clins d'œil là, tu vois quoi.
Alors tu as dit que c'était où ça?
Alors ça c'est sur Action lundi à partir de 20h40. Mardi sur NT1, Frère de sang de James Bruce avec Patrick Muldoon, Carmen Electra, Josh Reynolds et Lyndon Ashby. J'ai même pas besoin de vous dire que c'est la bouse de la semaine.
Hein. Ouais, mais casting rigolo quand même.
Mais rigolo ouais. Sur TF6 à 20h40. Un film que moi j'ai vachement apprécié quand je l'ai vu, mais enfin c'était une autre époque, un autre monde. Les galettes de Pont-Aven de Joël Seria avec Jean-Pierre Mariel, Bernard Fresson et Jeanne Goupil en 75. Mais c'est un film vraiment sympa. Petit peu, on va dire, libertaire. On va dire, il y a un petit soupçon de libertarisme qui souffle sur ce film qui est vraiment assez intéressant. Le genre de film que tu ferais plus maintenant en plus, quoi. Tu as vraiment... Il y a des trucs un petit peu osés, on va dire, mais à l'époque ça passait bien. Mais il y a beaucoup de films d'ailleurs. Il y a pas si longtemps que ça, il y avait un autre film dont je parlais qui passait des scènes qu'on pourrait plus tourner maintenant parce que ce serait vraiment politiquement trop incorrect. Alors qu'à l'époque, on se disait ouais c'est bon, c'est du cinéma, on s'en fout quoi, fait ce qu'on veut. Ah, c'est sur TF6 donc à partir de 20h40 lundi, les galettes de Pont-Aven. Sur Cinéma Classique lundi à 20h40, Far West Story de Sergio Corbucci avec Thomas Millian, Suzanne George et Tei Savalas. Sur Polar à 21h mardi prochain, le dossier Odessa de Ronald Lim avec John Voight et les deux Shell, Maximilian et Maria. Mercredi sur M6.
Juste une chose, je tiens à tirer mon chapeau à NRJ12 qui va diffuser une nouvelle série qui s'appelle Warehouse 13.
Qui est diffusé, on est déjà à la saison 2 sur Syfy
de Warehouse. Ah oui, mais pour ceux qui l'ont pas vu, c'est très bien. Mais normalement, ils étaient censés diffuser le premier épisode mercredi dernier et ils ont pas pu. Parce que ils ont vérifié sur un ordinateur, ils ont changé l'ordinateur de diffusion et après ils ont diffusé. Oh merde!
Ah les batteringues!
Eh ouais.
Pas mal!
Alors. Le film qui est pas la bouse de la semaine, mais qui est le film intrigant de la semaine.
C'est
on se
mercredi
demande.
Soir, on a peur. Hein.
Non, parce que c'est mercredi après-midi là sur M6
d'accord.
En plus.
Oula.
Alerte au crocodile de Simon Rost en 2006. Alors imaginez des contrebandiers sur le Danube qui laissent échapper un crocodile. Il va falloir le récupérer. Avec Christian Tramitz, Dorine Jacobi et Dirk Bach. Alerte au crocodile, c'est mercredi à 15h45 sur M6. Mercredi sur NT1 à 20h35, Red Skies de Larry Carroll. C'est un petit polar sympa avec Viviane Wu qui s'est latée pas mal. Hein. Elle est bonne, excellente quoi. pas au niveau sexuel, mais au niveau
oh
combat. Hein.
Non.
Il y a Sean Christian et Roger Yuan, hein, l'histoire d'une nana qui vient essayer de ramener un criminel chinois en Chine. Elle vient de Chine populaire et tout. Et puis bon, elle envoyait comme flic pour collaborer avec les flics de Los Angeles.
Ah bon, c'est pas Sami Lu cette fois-ci.
Non, c'est pas Samo Hung. Non. Bon, on y gagne au change, hein, je peux dire.
Sami Lu, c'est marrant. C'est...
Vivian Wu, c'est quand même vachement mieux, hein, tu vois quoi. Enfin bon, c'est le même genre que Michelle Yeoh, mais moi je préfère Vivian Wu quoi quand même. Energy 12 mercredi prochain à 20h35, le prix du sang de Jeff King avec Steven Seagal.
Ouais.
Et celui-là, il est très récent, hein, il est pratiquement inédit, 2009 quand même, l'année dernière. Alors je vous ai pas ramené la critique qu'il y a dans le canard de télé quoi, parce que bon, il compare à Steven Seagal à un monument tellement inexpressif qu'il pourra bientôt jouer le rôle des statues de l'île de Pâques. Mais par contre, on peut regarder. Ah ben, j'invente rien, hein, tu vois. Là j'ai
attends,
rien inventé.
Attends,
hein.
Il a une réplique qui m'a toujours fait rire, Steven Seagal. Je sais plus dans quel film où il joue un flic qui pour une raison de probation, doit être dans un groupe, tu sais, de d'alcoolique anonyme, et il dit voyez ce visage, c'est celui du bonheur.
Donc le prix du sang avec Steven Seagal, on retrouve Dimitri Chepovetsky qu'on connaissait déjà dans la série Regenesis. Oui, ce mec qui a fublé de talk là, tu sais quoi, le génie là qui à un moment il y a l'épisode où il s'occupe de son chien qui va mourir et tout quoi. Enfin bon.
Mais on l'a déjà vu si je me trompe dans FX, effets très spéciaux.
Peut-être aussi.
Lui qui avait le rôle principal.
Non, c'est Brian comment il s'appelle FX
je sais plus,
Brian machin. Enfin,
bon,
bref.
Je me suis planté, d'accord.
Donc toujours mercredi TCM, une grosse soirée avec un triptyque Hawks, Bogart, Bacall.
Oula.
Donc on aurait pu prendre dans l'ordre au niveau chronologique, mais on commence par le meilleur, le grand sommeil à 20h40 et on continue à 22h35 par le port de l'angoisse, Dark Passage en version originale, tous les deux de Howard Hawks et tous les deux avec Bogart et Bacall. Pas besoin d'en rajouter quant au scénario de ces films. Jeudi sur M6, alors je sais pas si vous avez jeté un œil jeudi dernier sur M6 à 20h40, Lie to Me, nouvelle série avec Tim Roth.
Et là j'ai pas eu de bol, j'ai eu quelqu'un qui est passé, ça avait l'air bien, mais...
Et là je peux vous dire que pour une série où justement je me disais tiens, je suis obligé d'arrêter de lire mes BD que je dois chroniquer pour samedi et tout, je suis obligé d'arrêter de faire mon programme machin quoi, je vais me foutre devant comme ça j'aurai au moins quelque chose à dire, à débiner,
à débiner quoi, tu vois.
Et ben je suis resté scotché les 3 épisodes et je me suis dit waouh, il est quand même fort Tim Roth quoi. Et il faut dire que c'est assez bien foutu, hein, l'histoire de ce détecteur de mensonges humains, c'est vraiment très très bien rendu. 3 épisodes, 3 histoires complètement différentes, et ça fonctionne vraiment bien. Là, il n'y a pas de problème, pour l'instant. Je peux pas dire de mal de cette série parce que bah vraiment ça fonctionne à fond.
Il va falloir que je me les remette les trois premiers.
Et vraiment Tim Roth là, il démontre que c'est vraiment un excellent acteur. Là,
donc c'est M6 jeudi.
Lie to Me, M6 donc 20h40 jeudi prochain.
Tu fais regretter de pas l'avoir vu.
Arte à 20h35.
Vraiment. À vérifier, mais
vraiment c'est bluffant.
C'est en version multilingue.
Ouais, c'est en version multilingue. Et seulement ça dépote hein, en anglais hein, c'est moi j'ai pas les sous-titres, tu vois. Ouh, j'ai du mal.
Sur Arte, meilleur provider.
Sur Arte à 20h35, Paranoid Park de Gus Van Sant hein, c'est toujours jeudi prochain. Sur TPS Star, Troupe d'élite de José Padilla avec Wagner Moura, André Ramio et Fernanda Machado. C'est du film d'action qui dépote brésilien. Et il paraît que ça dépote vraiment à fond, hein, que c'est hyper violent. NT1 à 20h35, L'étal de Dustin Rickert avec Iter Marie Marsden, Lorenzo Lamas et Frank Zagarino, le retour. Enfin, là, à son âge, il doit jouer le rôle du chef de la mafia, tu vois. Le mec qui salue plus les mains, quoi. Alors que dans le temps, il y avait, hein, pas de problème, quoi. Sur 13e rue, 20h40, Spartan de David Mamet avec Val Kilmer, Kristen Bell, William H. Macy et Ed O'Neill. Sur TCM qui démarre une... comment on dit ?
Un cycle.
Un cycle film... film dérangeant, on va dire, hein, film osé, film outré, on va dire, avec déjà La dernière tentation du Christ, de Martin Scorsese, hein, qui avait bien dépoté à l'époque, on se demande pourquoi d'ailleurs.
À l'époque, on menaçait d'exploser le cinéma, et c'était pas les musulmans, hein.
Ah non, c'était pas les musulmans, non.
Il y a eu des morts,
c'était
d'ailleurs.
Ceux de notre bord.
Voilà. Enfin, je sais pas de quel bord ils sont,
ouais,
mais...
Bah, ouais, non, ouais.
À part soi-disant du côté de Dieu, mais il y a eu des morts en France.
Ouais.
Hein,
il y aura également la diffusion de Tourner, il y aura qui est programmé cette semaine, ouais, d'ailleurs c'est le lendemain, quoi. Il y a également Easy Rider, enfin ce genre de film, quoi. Mm. Hein, donc ça y va. Donc c'est sur TCM jeudi prochain, 20h40.
Avec les plans rapprochés qui vont avec, qui suivront, et là ça va.
Sur Polar, à 21h, 8 millions de façons de mourir. Et tiré du bouquin de Laurence Bloch, excellent. Et le film est bien aussi, de Al Ashby, avec Jeff Bridges, Rosanna Arquette et Alexandra Paul et tout, quoi. C'est un polar, mais dans ce polar et dans d'autres polars de Laurence Bloch d'ailleurs, c'est plus le rapport d'un homme avec son alcoolisme qui est évoqué dans ses bouquins, et c'est vachement bien foutu, et c'est un petit peu rendu également dans le film de Al Ashby, un petit peu moins quand même, hein, c'est plus latent, mais c'est ça qui est le plus intéressant. C'est pas simplement un polar et tout avec un type qui sauve quelqu'un ou qui rend la justice et tout, non, il y a autre chose en plus, hein, et qui en fait se révèle être le truc principal. Hein, non mais ça, il faut lire le bouquin aussi pour le savoir. Sur Cinéfix, 21h, Frankenhooker de Frank Hennenlotter avec James Lorient et Patty Mulan, l'histoire d'un mec dont la nana elle se fait dégommer, couper en morceaux et tout, puis bah, il décide de la reconstruire et tout, quoi.
Alors pour cela, il va dans les quartiers louches et puis il sélectionne chacune des putes
en prenant des
morceaux.
Il prend des morceaux.
il les marque au marqueur. Alors voilà. Je l'ai pris pour ça. C'est une grosse parodie vraiment hilarante.
Ouais, c'est
parce qu'en fait, c'est un inventeur génial qui a inventé une tondeuse télécommandée.
D'accord.
Voilà, je te laisse deviner ce qui se passe avec la tondeuse.
Je vois.
Ouais, bon.
C'est complètement.
On termine avec vendredi sur RTL9, 22h40, Bodyguard de Pana Ritikral et Pechai Wongkamlao. Alors, j'ai même pas besoin de te dire d'où ça vient.
De Thaïlande,
voilà. Avec Tony Jaa.
Oui, alors par contre, ne vous faites pas avoir parce que Tony Jaa n'apparaît que 3 minutes dedans.
Ouais, non, mais c'est avant Ong Bak, hein.
Oui.
Donc, il était pas connu, Tony Jaa, là. Oui. Il était encore. Pousse-toi de là, quoi.
Oui, parce que c'est marrant parce que je l'ai vu le DVD à à mon disque préféré il y a pas longtemps. Et en gros, c'est un film qui date d'avant, mais ils le disent pas. Et en plus, ils mettent Tony Jaa sur la couverture.
Non, c'est pas étonnant, quoi. C'est pas étonnant. Parce qu'en fait, l'acteur principal, c'est également l'un des deux réalisateurs, c'est Pechai Wongkamlao. Low, quoi, qui est l'acteur principal dans Bodyguard. Sur TCM vendredi à 20h40, Tueur Né, dont j'ai parlé juste avant. Sur Polar à 21h, Loophole de John Quested, c'est anglais, avec Albert Finney, Martin Sheen, Susanna York et Colin Blakely. Sur Action à 21h, Pancho Villa, mais pas celui des années 50, celui des années 60, de Buzz Kulik, avec quand même Robert Mitchum, Yul Brynner et Charles Bronson.
Punaise.
Ça peut quand même le faire. Hein, ce sera pratiquement tout pour notre sélection télé. Et pour ce cher Franck Ribéry qui fait beaucoup parler de lui, je lui ai préparé une petite sélection spéciale. Hein, parce que, alors c'est assez marrant parce que quand tu achètes l'équipe d'hier, hein, tout, quoi, qui est vendue avec le magazine, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de canard, et tu as la couverture de Ribéry avec sa femme, Moïba. Alors que dans Paris Match, t'as la couverture, c'est une autre blonde maghrébine, voilà, quoi. Alors je sais pas, quoi. Moi généralement, je me suis toujours dit, ça c'est un aparté, hein, que je me fais.
Sex
je me suis,
and foot,
je me suis
un
toujours dit, si tu vas aux putes, c'est pas pour aller baiser avec une nana qui ressemble à ta femme. C'est plutôt pour aller chercher autre chose, quoi, tu vois.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a une.
Et là, bon ben, faut pas déconner, quoi. Enfin bon, là, elle est un petit peu enveloppée, mais quand elle était un peu plus jeune, hein, c'est pas mal, quoi. Alors bon, ben, je sais pas. Enfin bon, ça veut dire qu'ils sont un petit peu limités. Alors Franck, c'est pour toi. Chaîne XXL, ce soir, samedi, minuit. Yasmine, Sex for Cash. Bon, elle est retirée des affaires, mais c'est une beurette, hein, mon gars. C'est une brune, désolé. Demain, à minuit, ASS 117.
Attends. T'oublies qu'il y a le film porno sur NT1 demain à 22h30 et la parodie du film porno diffusée au même moment sur No Life. Ça, on attend de voir.
Mardi, à minuit, Maghreb Solo 2. Oh, toujours sur XXL. Mercredi à 1h20 du matin, Beurette à méga foutre 2. Et jeudi à minuit, Beurette à méga foutre 1. C'est pour toi, Franck, vas-y. Et c'est tout.
Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris une émission en cours de route?
Mais tout à fait, Thierry. Alors, une spéciale juste ici aujourd'hui, l'agenda BD avec des noms d'auteurs massacrés, une école de méchants, du bad guy repenti, une héroïne improvisée à gros nichons, du film en costume décomplexé du gland, une interview pornawak, des mafiosi rigolos, des Ruskov sur la lune, de l'autoflagellation en artbook, du corbac dépressif, urgence avec des gros organes, du X inédit, du putain de bodybuildé, ostro, je sais pas quoi, du crocodile en liberté, un Steven Seagal à l'île de Pâques, un petit Samilo inventé par Daskritch et du cul pour Frankie Goes to FC Hollywood.
Non, Damas, qu'ils ont manqué tout ça? Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, réécouter les précédentes et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web supplémentweekend.fr. Vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz sur la région de Toulouse. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM à partir de 17h et on continue sur www.radio-fmr.net. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode où nous serons en direct de la place du Capitole. Si, si, un 8 mai, et c'est pas pour regarder défiler les chars. Mais on sera en direct donc du festival de la bande dessinée de Toulouse avec des auteurs sur le centre d'un libraire. Et plein d'autres choses. Donc oui, non,
oui, on peut dire le libraire, on sera sur le stand de Terre de Légende.
Ce qui veut dire qu'il faut aussi qu'on annonce qu'il y aura Cultura et la librairie Gilbert Joseph qui auront aussi leur stand. Ciao, bye bye, on se retrouve la semaine prochaine, même fréquence. Et sortez couverts.